Cube Radio. Jonathan Trudeau.
Joe Trudeau. Et Maude Boutet. Maude Boutet. Franchement dit.
Cube Radio.
Bon vendredi, aujourd'hui on est le 19 juin 2020. Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio, bienvenue dans Franchement dit pour cette dernière édition avant les vacances estivales. Je suis en compagnie de Maude. Comment ça va, Maude?
Salut, ça va bien, toi?
Ça va, je te vois pas? C'est
qui se passe? Ben là, mais c'est j'essaie de t'appeler puis tu réponds pas. Gars, je t'appelle, là. On va se faire notre petit FaceTime. Gars, je t'appelle. Réponds.
On fait la radio live. Voyons voir sur
la capote.
Ah
ben,
oui,
gars,
je te vois. Ah,
gars,
un beau gilet orange estival.
Ben oui, c'est une robe orange. Ça fait j'ai l'air du soleil. Ben oui, c'est une petite robe, toi.
Fait beau.
C'est fun, les robes, là. T'as juste... Tu sais, les gars, vous pensez qu'on met ça juste pour... c'est juste pour être cute, tout. Mais c'est tellement plus simple quand t'arrives dans ta garde-robe, choisir juste un morceau de linge, puis dire le matin, là, tout ce que j'ai à faire, c'est faire flou, puis mettre une affaire.
Ouais, c'est ça.
Ça, c'est le fun.
T'sais, souvent, on entend dire que les gars, on est privilégiés parce que les cheveux, c'est moins compliqué,
ouais.
On n'a pas besoin de se maquiller.
Mm-hmm.
C'est vrai qu'on est moins jugé sur notre habillement, etc., etc. Mais il reste que vous avez quand même certains avantages. Comme tu sais, en été, là,
ouais.
Moi, pendant de nombreuses années, je travaillais en complet, là. T'sais, une journée comme aujourd'hui, là, t'as pas de fun là, à sortir
en
avec
complet,
ta chemise, ton complet, tes pantalons longs.
Ta cravate qui
la robe à frais à job. Là.
Oui, solide.
C'est niaiseux, dans le fond, pourquoi on peut pas mettre de robe?
Tu sais, quand mais en mieux, mon cher.
Non, mais sérieux, tu sais, c'est des conventions, là, mais...
Oh oui, c'est vrai.
T'sais, c'est pourquoi quelqu'un, quelque part, a décidé un jour que les gars mettaient pas de robe?
Ben, il y a le kilt, qui est comme une jupe.
Ben.
Ça peut être ça.
Ouais.
Ouais.
Tu vas être bien en kilt quand même.
Sûrement.
Avec une petite Guinness, là. Tu joues de la bombarde,
oui.
Puis...
puis t'as l'air qui te rafraîchit. C'est bien.
Ah oui, oui. Ah non, non. Puis les cheveux aussi, by the way, vous êtes rendu compte que les gars, finalement, là, en période de pandémie, qui a le plus souffert de la fermeture des salons de coiffure? Qui
se
sont le plus fait
arranger
le portrait? Bah arrête.
Ben oui, ben là. Les
filles
teint en blond avec une grosse
repousse. Fait à 45 degrés, là.
Non, non. Une grosse repousse qui va jusqu'au milieu de ta face, là, quand t'es blonde, là, c'est laid en sacrament. Il y en a qui l'ont trouvé long.
Ben, il y en a qui choisissent
longue.
Ça, pourtant, comme look.
La pandémie.
T'sais,
ben,
y en a qui
oui,
font faire
t'sais,
ça juste des... T'sais,
mais tu sais, admettons, moi, là, t'sais, ça a bien été parce que j'ai un effet... tu sais, ma repousse naturelle, là, ça se mélange à ces petites mèches blondes. Fait que moi, j'étais correct, là. Mais tu sais, une fille qui est vraiment foncée puis qui décide qu'elle a voulu être blonde, là, c'est là que tu le regrettes.
Ouais.
Je pense que c'est là.
Absolument.
Beaucoup d'entretien.
Bref, mais c'est tout un stretch qu'on a commencé là. Depuis quelques jours.
Oui.
La chaleur est là. On plaint ceux qui sont dans des conditions où, évidemment, on pense aux aînés là, dans des CHSLD, mm-hmm. mais des gens qui sont dans des appartements, par exemple, pas climatisés ou quoi que ce soit. Un moment donné, là, on fait souvent des faces qu'on n'a pas le droit de se plaindre de la chaleur, mais à ce temps-ci de l'année, là, quand ça te rentre dedans, oui, t'as le droit.
Puis parce que ça va être long aussi. C'est pas juste 2-3 jours, ça va être jusqu'à au moins mercredi prochain que je regardais. T'sais, mercredi, là, la douceur, ça va être 28. Si je me rappelle bien là, de ce que j'ai regardé tantôt. C'est parce que 28, c'est encore, très chaud. Très, très chaud.
Très bon. Puis les nuits sont chaudes. Les nuits sont chaudes. Et là, évidemment, on va nous parler de changement climatique. D'ailleurs, je sais pas si c'est la presse qui a sorti ça hier et qui revient à la charge aujourd'hui. Là, ils auraient mis la main sur le plan de réduction des GES qui devait être déposé par le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, au moment de la pandémie à peu près. Là.
Mm-hmm.
Il était dû pour le faire quelque part au mois de mars. Évidemment, tout ça a été mis sur la glace. Et là, ils ont mis la main sur une des versions du plan. Le gouvernement dit, bon, c'est pas exactement le bon plan. Il va y avoir des choses de modifier. Et là, avant même que le gouvernement ait expliqué sa démarche, ce que ça implique comme effort gouvernemental, ce que ça implique mm-hmm. comme nouvelle politique, comme investissement, deniers publics et tout ça. Et là, les partis d'opposition, les spécialistes en matière d'environnement sont tous déjà en train de déchirer leur chemise. Tu sais, hier, je parlais avec Richard là, du fait qu'on manque de bonnes candidatures en politique. Là. C'est le genre d'exemple qu'on peut mettre dans le pot. Là.
Ouais.
La politique, elle n'est même pas encore présentée que déjà, elle est décriée. Donc là, le gouvernement aura beau, finalement, quand ils vont le faire, je ne sais pas quand, à quel moment ils vont aller de l'avant, mais lorsque le ministre de l'Environnement va finalement présenter sa politique, le discours, non seulement il est déjà écrit, mais il est déjà prononcé de comment il va être accueilli. T'sais, Dominique Champagne est déjà en train de déplorer la mollesse du gouvernement qui réalise pas ses promesses. Donc, quand ça va sortir, penses-tu vraiment qu'il va changer son discours et dire « Ah, ben finalement, là, c'est pas tout à fait ce qu'on pensait, puis je suis satisfait, puis... »
Pas dans la
c'est
nuance.
C'est décourageant, là. C'est décourageant. Là. Eux autres, ils ont regardé un chiffre en bas de la liste, là. On doit arriver à tant de réduction de nos GES, et si le gouvernement y arrive pas pile-poil, ils vont le dénoncer. Tu sais, ils aimeraient mieux un gouvernement qui verse dans l'utopie, dans l'idéalisme, mais qui n'a pas les moyens de ses ambitions, comme ce qu'on a vu au cours des dernières années, voire même dernières décennies, là, des engagements, Kyoto,
qu'on
Paris,
n'atteint jamais.
Puis qu'on n'est même pas proche de l'atteindre. Le gouvernement Couillard, non seulement n'atteignait pas ses objectifs, avait même vu une légère augmentation de ses émissions de GES. Puis il faisait la leçon. Tu sais, fait que si, mettons, c'est pas, là, je sais même plus, chef, là, si c'est pas 30.5, là, mais que c'est 28.5, là, on peut-tu se dire, hey, ça serait déjà un Christy de bon bout de chemin de fait? Regarde, commençons ça, là, on va voir si c'est plausible, si c'est réaliste, si on n'est pas en train de tout sacrer le système économique à terre avec tous les sacrifices que ça va demander, puis après ça, on verra, bon, on peut aller plus loin. Non, non, c'est le tout ou rien.
Titanic, c'est long à faire virer de bord, tu sais.
Hein?
C'est un peu ça qui se passe, tu sais. On peut pas, même si on, tu sais, il y a le vouloir, puis il y a le pouvoir.
Mais la bonne nouvelle, c'est que avec les réchauffements climatiques, le Titanic, il n'y aurait plus d'iceberg devant lui, tu sais. Fait qu'il peut prendre comme tout son temps pour tourner, là.
Il n'est même pas obligé de tourner.
Ça, il n'y a rien à éviter.
Mais non.
Il n'y a rien à éviter. Je voulais te dire quelque chose de beaucoup, beaucoup plus léger.
Ben, vas-y.
Parce que on parlait de l'été, puis je suis en train de repogner les nerfs sur les extrémistes environnementalistes. Prenez juste votre gaz égal, s'il vous plaît. Là. Essayez de ne pas nous échapper. Là. Tout le monde, moi, j'arrête pas. Puis, tu sais, tu auras sûrement remarqué que dans plusieurs entrevues, je dis que la pandémie, la crise économique, c'est l'occasion de moduler notre économie, la relance, innovons, économie plus verte. Je suis 100% d'accord pour ça. Là. Mais, tu sais, soyez équilibrés dans votre discours. Juste ça qu'on vous demande. Michel Bordelot.
Hey, je l'avais dans mes nouvelles. Oh là là.
Là, on peut-tu l'appeler? On peut-tu comme y dire Monsieur Bordelot?
Peux-tu vous toucher le bras?
Non, mais pouvez-vous laisser la chance aux autres un peu?
Non, mais je suis sûre que si tu t'attrapes sa chance. C'est comme le film, là. Que la fille, elle perd sa chance, elle l'attrape, elle le repère, elle...
Ah ouais?
Ouais.
Non, mais...
C'est Lindsay Lohan. C'était super bon.
Le gars a gagné deux fois un gros lot. Tu sais, pas... Hey, j'ai gagné deux fois 25$ puis une participation gratuite ou.
Mais tu sais, mais c'est même pas 20 000, j'ai gagné là. Un petit million une fois puis après ça, j'en ai regagné un autre. Non, 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 non. 10 ans d'écart.
Gagné... Ouais, vas-y. Ben, tu l'as-tu devant toi?
Oui, je l'ai devant moi.
OK, ben, vas-y, vas-y.
Fait que 10 ans après avoir remporté une première fois la loto, 25 millions avec un groupe de 11 personnes, donc il y a eu 2,5 millions. Ben, Colin, il a gagné 15 millions au dernier tirage du Loto Max.
Il l'a gagné tout seul en plus. Là.
Il l'a gagné tout seul et il a décidé de séparer ça avec sa femme, donc sa conjointe et ses 3 enfants. Il a acheté le billet gagnant au même dépanneur qu'il y a 10 ans, à Saint-Narcisse, tout près de Trois-Rivières, monsieur de la Mauricie. Et je lisais un autre article hier où on lui demandait, tu sais, pourquoi vous avez continué à acheter des billets de loto? Mais c'est-à-dire, vous avez gagné une fois. Après ça, tu te tiens calme, tu te dis, j'ai gagné une fois, ça réarrivera pas deux fois. Il dit, ben je le faisais pour, entre autres, les gens du dépanneur, parce que, tu sais, le commerce où on achète le billet de loto récupère, il y a une commission de 1% du lot qui leur est versé, comme dans ce cas-ci, ça sera 150 000 $ puis tu sais, dans le cas du 25 millions, ben c'est un petit peu plus. Donc, il dit, ben je le faisais pour eux, tu sais, parce qu'eux aussi vont pouvoir en bénéficier par après. Michel Bordelot, il est retraité, il veut continuer de profiter de la vie avec ceux qu'il aime. Puis il dit, c'est pas la pandémie qui va m'empêcher de faire quoi que ce soit. Et là, tu te demandes, va-t-il continuer à acheter des billets de loto? Ben oui, parce que jamais 203.
Ah, oh, come on! Là, toi, mettons, là, tu sais, il y a deux types de personnes. T'as celle qui va se dire, moi, je vais à ce dépanneur-là. C'est clairement, c'est un dépanneur chanceux, j'y vais. Mais t'as l'autre qui va dire, ben là, deux je m'excuse, mais déjà, il avait gagné une fois, deux fois. C'est sûr que le dépanneur ne retirera pas un gros lot, là. Monsieur Bordelot, c'est, les chances sont minces, le dépanneur aussi, là.
Ben, peut-être dans 10 ans.
Toi, tu serais-tu du style à dire, m'arrêter, m'acheter
un
petit auto-là, ou, ouais?
Non, ça me donne juste le goût d'aller en acheter un tout court.
Ah, pas moi.
Moi, ça me pogne. Ça me pogne des fois. Tu sais, là, avant, c'était dans la file à l'épicerie où je me disais, hey, ça serait fun, une petite poule. Parce qu'il y avait la poule aux œufs d'or dans ce temps-là, tu sais.
OK.
J'adore la poule aux œufs d'or. Fait que là, je pouvais garder ma petite poule aux œufs d'or. Puis, je faisais ça quand j'attendais dans le fil à l'épicerie, mais là, je fais plus à la file à l'épicerie, je vais à la caisse rapide, puis je scanne mes affaires moi-même, puis tchao, bye, je suis partie. Mais, tu sais, une fois de temps en temps, là, tu sais, ça doit même pas être 5 fois par année, là. Des fois, okay. Tu dis, donne-moi donc, t'as l'affaire, toi.
Ben, moi, les seules fois que j'en prends, c'est quand il y a des gigas gros lots, puis encore là, dans la dernière année ou deux, je l'ai même pas fait. Parce que t'es déçu pour rien.
Ouais. Ben, nous autres, t'sais, si
quand
on avait.
Je suis pas déçu, là.
On avait fait pour la première fois, c'était-tu l'été passé? C'était plus
non,
proche
j'avais
que ça.
Embarqué là-dedans.
Le méga, méga gros lot qui avait eu le genre de lot record de je sais plus combien de millions. Puis on avait comme gagné on avait roulé un peu sur ce qu'on avait récolté à cause de la cotisation de tout le monde. Fait que c'est des participations gratuites, on avait gagné l'argent, il avait réinvesti, puis tout ça. Puis je sais pas comment ça a fini. Là,
c'est
mais...
vrai, on avait, mettons, jusqu'à 4 heures pour envoyer un petit virement Interac, là, je pense à 5$. Puis moi, j'avais dit, j'embarque pas là-dedans, voyons.
Puis finalement, tout le monde l'a fait.
Non, mais s'il fallait que tout le monde sac son camp parce qu'ils ont gagné, ils sont multimillionnaires, puis moi, je suis le seul tweet qui reste en arrière, je prendrai pas chance. Je vais l'envoyer mon petit 5$.
S'il fallait qu'ils gagnent, à quel point je me sentirais mal de pas avoir juste donné un petit 5$.
Ouais, c'est ça.
Fait qu'il est chanceux.
Voilà.
La chance se trouve à Saint-Narcisse.
Très chanceux. Non, puis écoute, moi, je suis pas du style à être jaloux puis envieux, tu sais, bravo,
profitez-en. Ça a l'air d'un bon vivant, ce monsieur-là, en plus.
Oui. Sa femme, ses enfants, ils vont en profiter. Donc, ça a l'air d'être du bien beau monde, mais pas le seul à chance un petit peu aux autres. Hey, bougez pas, on fait une première pause et on revient.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Franchement dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
1-877-827-2346.
Bon, je pense que dans les dernières semaines, on a été assez engagé et efficace à faire la promotion du tourisme au Québec, des régions, à parler à des restaurateurs qui attendaient la relance ou pour qui la relance débutait. Puis on encourage les gens à consommer, moi j'appelle ça consommer le Québec, là, autant au niveau touristique qu'au niveau de la gastronomie. Et là, quand j'ai vu ça au début de la semaine, j'ai dit « wow ». Mais quelle idée géniale. Moi, j'appelle ça joindre l'agréable à l'agréable. C'est pas de joindre l'utile à l'agréable, c'est de joindre l'agréable à l'agréable. La chef Marie-Chantal Lepage qui a eu l'idée d'acheter un motorisé, un 32 pieds, d'en faire un motorisé de luxe, mais dans lequel elle va offrir ses plats préparés d'avance, sous vide. Donc, t'as la bouffe de luxe aussi pour t'accompagner dans tes randonnées, dans tes excursions, dans tes voyages au travers le Québec. Je trouve que c'est une idée merveilleuse. J'avais envie d'en discuter avec elle. Marie-Chantal Lepage, donc une chef bien connue. Elle a été notamment chef exécutive au Château Bonne Entente. Elle a eu son restaurant Espace MC Chef. Elle vient tout juste de terminer son mandat comme chef au Musée national des Beaux-Arts du Québec. On la rejoint au téléphone. Salut Marie-Chantal.
Salut, ça va bien?
Oui, ça va bien, vous aussi?
Ben oui, ça va bien, certain.
Juste un mot sur la fin du mandat, avant qu'on parle du projet, là, sur la fin du mandat au Musée national des Beaux-Arts du Québec. Ça a dû être difficile de j'appelle ça freiner sec de même, là, parce que votre mandat terminait à la fin mars, mais avec la pandémie, finalement, ça aurait été écourté de quelques semaines.
Ben, au fait, moi, au mois de septembre 2019, j'ai visé le Musée national des Beaux-Arts, que je renouvelais pas mon contrat. Ça faisait 5 ans que j'étais là, puis je voulais faire autre chose, puis mon mandat finissait le 31 mars, imagine. Mais le 14, bang, ça a arrêté comme tout le monde, hein, tout a arrêté le 14 mars. Et j'ai fini 15 jours avant la fin de mon mandat. Ça me fait de la peine parce que j'ai bien des clients que j'ai pas vus, j'ai des employés que j'ai pas vus. Tu sais, quand c'est arrivé, ça a été tellement soudain que... Donc, j'avais décidé de prendre mon été off au complet. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. C'est 40 ans que je travaille dans une cuisine, puis là, je me disais, ben là, je suis due pour un été off. Mais au mois de mai, ben là, il y a eu l'idée du motorisé personnel. Là. J'avais pas l'idée de faire quelque chose avec ça. Là. Je voulais acheter un motorisé.
OK, c'était pour une consommation personnelle.
Oui, oui, c'était pour consommation personnelle. Puis me promener cet été, je ne travaillais pas de l'été. Puis après ça, tu sais comment c'est, hein? Là, ben, commence à penser, hey, je pourrais faire des menus, hein, je pourrais le louer. Écoute, c'est parti. J'ai fait les menus, on l'a depuis un mois. Puis là, lundi, je revenais du Mont-Carmel avec le motorisé. Puis là, je dis, hey, je vais mettre ça sur ma page Facebook personnelle. Que tu es nouveau projet, tout ça, hey, ça a été l'enfer, Jonathan, là, ça a été l'enfer. J'avais de la misère à gérer mes courriels, mes messengers, mes téléphones. Donc, voilà, c'est un beau projet pour, ben, pour monsieur, madame, tout le monde. C'est un beau 32 pieds, t'as pas besoin de permis spécifique, c'est classé. Okay. Évidemment, à l'intérieur, écoute, il y a tout, il y a même un cinéma maison, on a mis une machine Nespresso, un mousseur à lait, il y a la plaque à induction pour l'extérieur, écoute, il y a tout. Donc, je suis bien énervée, c'est un beau projet, puis les gens sont vraiment, vraiment friands de ce nouveau produit-là, d'autant plus que j'offre un menu déjeuner, dîner, souper à la carte. Ça veut dire que si toi, Jonathan, tu le prends, tu te dis, hey, moi, je vais prendre tous les soupers, tu peux prendre plus les soupers, tu peux prendre juste les dîners. Tu n'es pas obligé de prendre l'option nourriture, mais je te dirais que jusqu'à la date, toutes les réservations que j'ai, tout le monde a pris l'option repas.
Mais je comprends. Puis là, dans le fond, tu vas tout préparer ça d'avance, sous vide, puis ouais, la personne, il ne faut pas qu'elle aille faire le plein à tous les jours là, de nourriture. Non. On part avec tout ce qu'on a de besoin pour la semaine, par exemple?
Ah oui, tu pars avec... tu fais ton choix. Il y a sept choix pour le dîner, sept choix pour le souper, puisqu'on loue à la semaine, ça joue. Puis tu fais ton choix, puis moi, je cuisine ça, je mets ça sous vide. Puis il reste juste à faire le montage ou saisir des... J'ai fait une paella réinventée, il va falloir saisir les pétanques, là. Mais tu sais, tout est fait. Le riz est fait, il est assaisonné, la sauce est faite, tout est fait.
C'est merveilleux, c'est merveilleux. Là, tu parles de paella. Peux-tu nous donner deux, trois idées là, pour ceux qui ont envie d'avoir l'eau à la bouche? Là? Deux, trois exemples de ce qu'on pourrait retrouver sur le menu?
Ben, entre autres, la paella revisitée que j'ai fait avec des chorizo, il y a du calmar U10 grillé, il y a des pétons confits à basse température sous vide, puis des gros pétons, évidemment. Il y a des cuisses de canard, il y a de l'épaule de bœuf. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? J'ai fait un tartare de saumon. Alors, le saumon va déjà être tout coupé, les condiments vont être à côté, juste à assaisonner, avec des pommes de terre Gabrielle façon un peu grecque. J'ai la salade César traditionnelle, mais avec un bacon fumé à l'érable. Wow. J'ai des pâtes. Écoute, je me suis beaucoup amusée à faire le menu. Et, je pense pas que je vais prendre le théâtre.
Non, effectivement. Dis-moi. Dis-moi, est-ce que ça existe ailleurs, ce genre de formule-là? Est-ce que c'est tout nouveau ou il y a déjà des formules similaires qui existent?
J'ai fait une recherche et j'ai pas trouvé que ça existait. J'ai pas vu de concept où ce que tu loues un motorisé et tu as des plats cuisinés avec. J'ai pas vu ça nulle part. Je pense que je suis la première, mais tu sais, écoute, peut-être qu'il y en a aux États-Unis, je ne sais pas. Mais moi, les recherches que j'ai faites, il n'y a personne qui a fait ça jusqu'à maintenant.
OK.
Ça, dans le fond, là, j'entends, c'est comme du. J'ai une de mes amies qui disait que c'est du glamping. C'est glamour. Camping, tu sais, parce que tu pars avec des plats cuisinés, tu es dans un super motorisé 32 pieds qui est super bien équipé et confortable, puis écoute, tu manges pas des hot dogs, là, tu peux manger des choses tripantes, des cuisses de canard confit, peu importe ce que tu choisis dans le menu, là,
je trouve ça fantastique.
Avec l'évasion.
Parce que moi, en camping, là, surtout avant qu'on ait des enfants, ça a toujours été un défi que je me faisais de faire des bonnes bouffes en camping. Tu sais, d'être capable, on s'est même déjà fait des sushis, nous autres, sur un terrain de camping. Ah ouais, là, on faisait ça, faire du magret de canard avec une sauce au foie gras, tu sais. Mais il reste qu'il faut que tu te casses la tête pour trouver les idées. T'as pas nécessairement les recettes. Faut que tu trouves les éléments. Donc, tu sais, là, il y a la portion où, oui, t'as un petit peu de finition à faire, un petit peu de cuisson, d'assemblage à faire toi-même. Sauf que les idées, tu sais, sont déjà là. Ça a été testé. On sait que ça va être bon. Mais il y a le plaisir de se dire, hey, t'es en camping. Tu te fais ta petite bouffe. Tu sors sur le côté une table à pique-nique. Tu manges. Je trouve le concept est merveilleux, là.
Ah! Puis tu manges bien, tu sais, puis tout le monde le sait, hein, cette année, le monde va rester au Québec. D'ailleurs, je sais pas, la Gaspésie, j'espère qu'ils sont prêts, là, parce que sur toutes les locations que j'ai faites du VR, tout le monde va en Gaspésie. Fait que je pense que la Gaspésie va avoir beaucoup de monde cette année.
Nous autres, on y va chaque année, mais ce serait là aussi, là.
Oui, hein? Donc, ben, moi, je l'ai essayé. On est parti. Ouais, écoute, c'est tellement le fun. On est bien excités par le projet. On regarde même pour en acheter un autre éventuellement. Parce que je pense que c'est un beau concept, puis ça va faire son chemin.
Parle-nous encore un peu du motorisé, parce que s'il y a des gens qui, par exemple, sont intimidés là, par les gros Winnebago, là, qui ont quasiment 53 oui. pieds de long, c'est 32 pieds, c'est une très, très belle grandeur, mais il reste que pour un conducteur qui n'est pas nécessairement habitué, c'est une formule qui est facile, qui est agréable.
Oui, mais écoute, c'est sûr qu'on ne laisse pas partir les gens comme ça. Il y a une formation d'au moins une heure avant de partir. Oui. La veille, tu sais, puis ma conjointe qui est avec moi là-dedans, ben elle a conduit des autobus du RTC. Tu comprends qu'elle, okay. c'est pas un problème pour elle, un 32 pieds. Donc, on donne une formation, mais même moi qui est pas habituée, tu sais, 32 pieds, ça fait peur un peu, mais ça se conduit tellement facilement, hein. Je dirais que ça se recule plus facilement qu'une voiture. C'est drôle à dire, hein. Ça se recule beaucoup plus facilement qu'une voiture. C'est juste pour pas t'oublier que le dernier est un peu plus long, là. C'est juste ça. Mais sinon, c'est hyper facile à conduire.
Puis un des enjeux des gens qui vont vouloir aller faire du camping ou du tourisme en région, il y a toute la question de l'accès aux blocs sanitaires dans les campings. Puis on fait beaucoup la promotion, on suggère aux gens d'avoir des installations où ils pourront avoir leur propre bloc sanitaire. Là, là-dedans, j'imagine, il y a toilette, douche aussi?
Ah, il y a toilette, il y a douche, il y a tout. Là. Il y a même une douche. Il y a douche extérieure, douche intérieure. Tout est là. Écoute, c'est une maison qui roule, là, c'est pas compliqué. Là. T'as un micro-ondes, puis souvent dans les motorisés, il y a un micro-ondes, puis il y a les ronds, trois ronds au propane ou quatre ronds au propane, mais dans celui-là, il y a le micro-ondes, il y a les ronds au propane, plus le four. Et ça, c'est assez rare d'avoir un four dans les motorisés. Ils en font presque plus. Donc, il est équipé machine d'espresso, le mousseur, comme j'ai dit tantôt. J'ai même un thermomix. Je pense de mettre mon thermomix là-dedans pour ceux qui veulent l'utiliser, réchauffer leur plat.
Avec un cahier d'explication, s'il vous plaît, aussi. Là. Moi, cette machine-là me fait peur.
Ça va pas d'une formation pour ça aussi.
Non, mais... J'ai l'impression que je lance quelque chose de la NASA si j'utilise ça. Là.
Ah non, mais inquiétez-vous pas. De toute manière, mon menu, les menus que j'ai qui sont disponibles pour le VR, j'ai fait un livre de recettes qui explique, photo, qui explique comment le... Ben, supposons s'il faut saisir les patons, tu sais, il y a toutes les explications. Puis ceux qui voudraient avoir un thermomix, c'est tellement facile à utiliser. Là. Quand on le sait pas, ça a l'air compliqué. Mais je donne une petite formation rapide, puis c'est bien facile. Puis les gens, ils ont un engouement pour ça, la cuisine, tu sais, les thermomix, oui. avant, c'était juste les chefs connaissaient ça. Maintenant, tout le monde connaît ça. Tout le monde écoute les émissions de culinaires. Donc, je pense que les gens vont vivre quelque chose de vraiment extraordinaire.
Mère Chantal, tu parles des émissions culinaires, de l'engouement pour tout ce qui touche la nourriture. Tu as été de ces chefs qui, au cours des dernières années, depuis plusieurs années, mettent de l'avant les produits du terroir, l'importance d'encourager ouais. nos producteurs. Puis je trouve que c'est un autre aspect du projet qui mérite d'être souligné, parce que oui, on va encourager le tourisme, on va encourager la restauration, ouais. mais par la bande aussi, il y a nos producteurs, on le voit, ça va être difficile, là, les récoltes et tout ça, des fruits, des légumes qui vont rester au champ. Ouais. Donc, il y a ça aussi, je trouve, qui est important. Ouais. Là, ça nous permet d'encourager nos producteurs.
Tout à fait. Puis moi, je suis en train de regarder pour faire des chemins gourmands, c'est-à-dire que, tu sais, un petit producteur qui fait, du miel, ben je vais mettre dans le motorisé, il va avoir comme un carnet de découvertes gourmandes du Québec.
Oui.
Si les gens s'en vont en Gaspésie, ben ils vont pouvoir savoir ce que des petits producteurs qui peuvent aller encourager.
Très bonne idée, très bonne idée. Bien, le projet, je trouve, il est emballant. Là, j'ose risquer la question. S'il y a des gens qui sont intéressés, y a-t-il encore des disponibilités ou là, l'été est full? Et,
pas beaucoup de disponibilité, mais il en reste encore. Mois de septembre, il y a de la disponibilité. Puis, tu sais, voyager au mois de septembre, c'est tellement extraordinaire. Il reste quelques semaines de disponibles, mais il faut faire vite parce que, écoute, j'aurais dû en acheter deux en même temps.
Mais, ben, espérons que ça va être le début d'une quoi, quasiment des franchises, Mère Chantal, qu'on va espérer. Mais je trouve l'idée est merveilleuse. Donc, les gens peuvent.
Excuse-moi, je ne voulais pas te couper.
Non, non, vas-y, il y a un petit délai qui s'est installé, c'est pour ça qu'on s'est coupé la parole, mais vas-y.
Tu sais, avec tout ce qui s'est passé avec le COVID, tout ça, là, je me disais, c'est pas bon que toi, Jonathan, tu fêtes le, le 40e de je sais pas qui, là. C'est à ton chalet. Ben moi, j'arrive avec le motorisé, je sors mes équipements dehors, je fais le traiteur, puis je repars. Il y a cette possibilité-là, mais avec l'engouement que j'ai pour la location, ben là, j'ai moins de moins en moins de plage horaire, mais j'en ai deux de prévus cet été, parce que je vais aller faire des traiteurs avec le motorisé. Je sors mes tables dehors, je sors mes affaires, je cuisine, je sors le traiteur de 50 personnes, puis après ça, je repars avec le motorisé.
Un food truck habitable nouveau genre.
Style. Yes, madame.
C'est vraiment, vraiment, vraiment une bonne idée. Évasion gourmande en VR, signé MC Lepage, Marie-Chantal Lepage. Les gens qui veulent donc plus d'informations, tout simplement aller sur ta page Facebook et entrer en contact avec toi. Félicitations pour l'initiative, puis un bel été, même si ce sera pas reposant finalement.
Ah, mais c'est tellement le fun. Tu sais, des beaux projets, là, c'est le fun. C'est pas fatigant. Fait que je vous souhaite un bel été à vous autres aussi, puis au plaisir.
Merci, à bientôt, Marie-Chantal.
Merci, bye-bye.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Franchement dit.
Jonathan Trudeau.
Et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
1877-827-2346. Cube Radio.
On va parler de politique avec ma collègue Emmanuel Latraverse. Salut Emmanuel.
Bonjour.
Écoute, une dernière chronique comme ça avant les vacances, des fois, l'approche de la Saint-Jean, on se dit, on va-tu avoir quelque chose à jaser de politique? Mais là, écoute, il y a tellement, c'est rare qu'on ait un menu aussi chargé que ça, parce qu'il y a plein d'éléments à aborder. Commençons tout de suite par la mise à jour économique du gouvernement du Québec, le ministre des Finances, Éric Girard, qui est en train de faire sa mise à jour. Et sans grande surprise, c'est un déficit majeur et plus important encore que ce qui avait été, ce qu'on avait laissé présager au cours des dernières semaines, au fond, là.
Oui, Québec se dirige vers un déficit là, de 14,9 milliards de dollars de l'économie en 2020-2021. Pourquoi? Ben, à cause de la baisse des revenus hein, qui sont monumentales, qu'on ferme là, 40% de l'économie qui a été fermée. Et ça, c'est sans compter les coûts directs là, causés par la COVID, les masques, les blouses, les gants de protection, tout ça. Là, juste ça, ça a pris 2,3 milliards de dollars, imagine. Alors maintenant, ça va être le défi du gouvernement, ça va être de trouver une façon de résorber tout ça. Il y a une partie de ce déficit-là qui, on espère, va se résorber seul, là, mais les revenus du gouvernement ont baissé de 8,5 milliards là, en fermant l'économie. Donc ça, alors que l'économie va reprendre, il y a un pari là, que l'argent va recommencer à rentrer, mais les dépenses pour la COVID, elles, vont quand même continuer. Là. Jusqu'ici, elles ont coûté 6,6 milliards de dollars au total. Mais quand on pense qu'il va continuer à falloir d'acheter des blouses, des gants, des masques et tout le reste pour se préparer pour la deuxième vague, les coûts associés aux mesures qu'on veut mettre en place dans les CHSLD, la capacité de tester à grande échelle qu'on n'est toujours pas capable d'atteindre, là, mais le gouvernement a quand même un objectif de 20 000 tests par jour. Mais juste ça, ça va coûter 200 millions de dollars d'ici la fin de l'année. Alors, le Québec qui en prend, qui encaisse ça de plein fouet. Et je pense que ça illustre à quel point, moi je salue là, cet exercice de transparence du gouvernement Legault, mais ça illustre à quel point c'est important pour le gouvernement fédéral de faire la même chose, là.
Oui, parce que justement, du côté du gouvernement Trudeau, évidemment, on a dépensé sans compter, là, c'est le cas de le dire, et on se fait tirer l'oreille, là. On se fait tirer un bras pour faire la mise à jour économique qui va venir finalement un peu plus tard.
Oui, finalement, elle va venir le 8 juillet. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 journées de réservées pendant l'été pour siéger vraiment formellement, mais sur des enjeux plus généraux. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir pas une mise à jour économique traditionnelle là, parce que le gouvernement maintient que c'est à peu près impossible de faire des prédictions de croissance et tout le reste. Parce que les tendances sont trop difficiles à lire, parce que l'économie mondiale est trop perturbée, mais au moins pour avoir un portrait réel de l'état de l'économie. Un peu comme ce que vient de nous offrir le gouvernement Legault. Ce qui est intéressant sur le gouvernement, dans le cas du Québec, c'est que la veille de quand tout ça nous a frappé de plein fouet, le 10 mars, on l'oublie, mm-hmm. mais c'était le budget du Québec qui ne faisait pas état de la COVID parce que fallait pas s'en faire. Quand ça allait arriver, on serait correct. Et le gouvernement disait non, mais tu sais, il y a la marge de manœuvre, il y a le fonds spécial dans lequel on pourra aller piger, il y a plein d'argent là-dedans, il y a 14 milliards de dollars, mais là, juste d'un coup, on vient d'effacer là, tout de réserve là, dans laquelle le gouvernement, de réserve comptable dans laquelle le gouvernement pouvait aller piger. Je pense que ça illustre à quel point le gouvernement Legault, néanmoins, là, malgré les efforts remarquables qu'il a fait pour gérer la crise une fois qu'il l'a frappé, à quel point le gouvernement avait sous-estimé l'impact potentiel de cette crise-là et était en quelque sorte mal préparé aussi, là.
Ouais, absolument. On a mentionné Justin Trudeau, revenons-y si tu le veux bien. Je trouve que c'est pas ce que j'appellerais une bonne semaine pour Justin Trudeau, parce que la PCU, bon, il a annoncé le prolongement, mais sans aucune modification, sans autres critères restrictifs ou incitatifs pour retourner sur le marché du travail, bien des gens dans plusieurs secteurs économiques qui dénoncent ça. On ajoute à ça l'échec à l'ONU, qui est une véritable gifle au visage de Justin Trudeau. Et là, même dans les dernières heures, on a appris que la Chine avait formellement déposé des accusations d'espionnage contre les deux Canadiens qui sont retenus prisonniers là depuis des mois et des mois. Bref, ici comme ailleurs, c'est pas une bonne semaine pour Justin Trudeau, là.
Non, pas du tout. Et c'est sur le front des deux pauvres Canadiens, Michael Kovrig et Michael Spavor, qui sont détenus depuis 18 mois en Chine, je te dirais que on n'est pas surpris que finalement la Chine finisse par les accuser formellement, mais on voit à quel point la Chine a fait le calcul de faire mal au Canada au lendemain du vote à l'ONU. Là, on fait ce geste-là le lendemain d'un échec, mais moi je pense qu'il l'aurait fait même le lendemain d'une victoire, on s'entend. Mm-hmm. Pour rappeler au Canada à quel point la Chine n'est pas prête de lâcher ce morceau-là. Ce qui était très inquiétant, c'est que tant qu'il n'était pas accusé, il pouvait envisager une voie de sortie diplomatique où tout le monde pouvait sauver la face. Le problème que ça pose maintenant pour ces deux hommes-là, c'est qu'à partir du moment où ils sont formellement accusés, là, ça complique encore plus les efforts pour essayer de les faire libérer. Et ce genre d'accusation-là, en Chine, a généralement un taux de condamnation de 100%.
Oui, c'est ça.
Et là, la Chine a lié les deux cas ensemble en disant que finalement, l'un était l'agent de l'autre sur le terrain. Donc, c'est complètement abscon, là, parce qu'il n'était pas du tout dans les mêmes sphères de travail, etc. Mais c'est sûr que c'est le casse-tête ultime dont je pense que le gouvernement ne réussira jamais à se libérer. Mais sur le front de la PCU et de la Chine et de l'ONU, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu ces deux cas où, de manière très différente, le gouvernement Trudeau récolte ce qu'il a semé. Commençons par la PCU. Il se retrouve à être forcé de la prolonger deux mois, mais sans la corriger. C'est la chose que le gouvernement ne voulait pas faire, parce que le gouvernement reconnaît lui-même qu'il y a des problèmes. Des problèmes de fraude, donc il faut augmenter les pénalités et faciliter la capacité de punir les fraudeurs. Et il y a un problème de désincitatif au travail. Donc, on voulait mettre des mécanismes dedans qui allaient forcer les gens à démontrer qu'ils ne pouvaient pas recommencer à travailler. Donc, quelqu'un qui se faisait offrir son emploi par son employeur avait plus droit à la PCU parce qu'il y avait son emploi auquel il pouvait retourner. Cette mesure-là avait l'appui du Bloc et du Parti conservateur la semaine dernière. Et la raison pour laquelle ça n'a pas été retenu et que ça n'a pas pu passer, c'est parce que le Bloc et le Parti conservateur, à un moment donné, disent « ça prend une mise à jour économique, il faut que le Parlement siège, c'est fini là, cette parodie de démocratie. » Mmh. Le Bloc qui demandait aussi au Parti libéral de remettre l'argent de la subvention salariale qu'il a touchée. Et donc, finalement, en, en jouant les gros bras et en refusant de rappeler le Parlement de manière formelle, le Parti libéral s'est placé dans une situation où la seule partie avec qui il peut négocier, c'est le NPD.
Ouais.
Et donc, il était otage des demandes du NPD qui voulait que la PCU soit reportée telle quelle. Et donc, il est prisonnier de ça. Puis sur le front des Nations unies, le gouvernement empêche pour avoir et puni, moi, je pense, d'un pour... l'espèce de bravade de se lancer dans une course qui était très tard, alors qu'il restait que 4 ans pour faire campagne et que les adversaires qui étaient crédibles faisaient campagne depuis 5-6 ans. Et donc, une bravade, c'est de dire « Oui, mais moi, je m'appelle Justin Trudeau, c'est le Canada, exact. On va l'avoir. » Tu sais, il y a un aveuglement total. Puis après ça, d'avoir eu l'audace de faire campagne et de pas livrer la marchandise, de pas livrer un engagement sérieux sur le front des casques bleus, d'avoir parlé beaucoup de féminisme sur la scène internationale, mais de ne pas avoir augmenté les budgets du Canada en termes d'aide internationale, et d'avoir eu une ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, qui n'a absolument pas fait campagne et qui ne s'en est pas occupée pour 2 cents. Mmh. Alors, morale de l'histoire, c'est le pauvre François-Philippe Champagne qui a été pris à réparer les pots cassés et essayer de sauver la mise sur une période de 6 mois. Alors, ouais. c'est un gouvernement qui est puni, moi, je pense, pour sa mauvaise habitude de promettre beaucoup et d'avoir de la misère à livrer la marchandise et à passer à l'action.
Je veux qu'on parle du chef du NPD, Jagmeet Singh. Moi, j'ai, comme on dit en bon québécois, pété un plomb en parlant avec Jean Martineau là-dessus tantôt. Je suis curieux d'entendre ton analyse, ta lecture de l'attitude de la situation de Jagmeet Singh, qui, à plus d'une reprise, même il réitère donc le fait que si les députés du Bloc québécois ont refusé de voter contre la motion qui avait été déposée concernant le racisme systémique et la GRC, ben que ça fait 2 des racistes. C'est assez particulier.
Ouais, c'est moi je trouve que c'est assez malheureux de la part de monsieur Singh, parce que c'est justement la façon de ne pas mener ce débat-là. Quand tu mets à traiter le monde de raciste parce qu'ils sont pas d'accord avec toi sur une question stratégique autour de la façon d'aborder le racisme à la GRC, faut en revenir à ça là. C'est comme se revendiquer d'être en possession tranquille de la vérité sur comment procéder dans ce débat-là dans la société. Je suis de ceux, par ailleurs, qui trouvent que c'était très maladroit de la part du Bloc québécois de ne pas voter en faveur de ça quand ils venaient de voter en faveur d'une enquête sur le racisme systémique à la GRC. Et ça, c'est comme tout ça, là, un nœud de vipère là, de mauvaise foi et de mauvais calcul politique. Je comprends pas pourquoi le Bloc québécois est dans des entourloupettes à dire qu'il y avait juste à l'appuyer, la motion. C'est une enquête sur le racisme systémique à la GRC, si tu penses qu'il y en a. Mais en vérité,
ouais, mais quand même, ça justifie pas le fait, ça justifie pas le fait qu'il se fasse traiter de raciste, là.
Je suis absolument, absolument d'accord avec toi. Mais, le Bloc québécois ne veut pas trop s'avancer là-dessus, puisque le racisme systémique, c'est pas un mot qui est populaire au Québec, alors on essaie d'épargner la chèvre et le chou. Et là, M. Singh, c'est la cerise sur le sundae de traiter le Bloc son leader à l'intérieur de raciste. C'est très facile parce que il est racisé, il est un chef de couleur, et donc on peut pas l'attaquer là-dessus. Moi, je trouve ça très maladroit, je trouve que c'est très malsain. Mais il y a une chose que M. Trudeau a dit là-dessus et qui m'amène à réfléchir à comment on va se sortir de ce débat-là. M. Trudeau faisait valoir, lui, qui essayait aussi d'épargner la chèvre et le chou dans ce débat-là, a dit « Ce n'est pas ma place, moi, politicien blanc, de reprocher à comment le seul chef politique de couleur à la Chambre des communes reçoit et interprète la façon dont les autres discutent du racisme. » Donc, c'est pas moi, comme blanc, qui va porter un jugement sur la réaction de quelqu'un de couleur à ce débat-là. Et ça m'a porté à réfléchir. Je n'ai pas absolument pas la réponse à ça. Et je pense pas que ça dédouane M. Singh dans la façon dont Il a exagéré en accusant le Bloc québécois de raciste. Là. C'est, je veux dire, c'est complètement exagéré. Mais je me suis dit, comment on fait après ça pour mener ce débat-là dans la société, à trouver la générosité que ça exige pour que la majorité blanche accepte des réactions qu'elle juge parfois exagérées de la part des gens de couleur dans ce débat-là, parce qu'on peut pas, il faut, je pense, développer, nous, cette générosité-là dans la façon dont on aborde le débat, mais je pense que ça exige aussi que les gens de couleur, pour qui c'est beaucoup plus émotif que pour nous, aient la tolérance d'accepter la maladresse de la majorité blanche dans la façon dont on mène ce débat-là. Alors, la seule façon dont on peut le mener, finalement, c'est en faisant preuve de générosité et d'une extrême bonne foi. Et c'est là, moi, je pense que Monsieur Singh a dérapé. C'est que c'est facile de mettre, de dire, ah, oh, mais le Bloc, c'est les Québécois identitaires racistes. Et c'est là que ça va se chercher. Et c'est là que, moi, je pense que Monsieur Singh a erré. C'est que lui, comme chef racisé d'un parti politique qui a voix au chapitre et qui peut nous en apprendre beaucoup là-dessus, n'est pas à l'abri de son obligation de faire preuve de générosité dans la façon dont ce débat-là est né. Et donc, même si je crois très maladroit du Bloc québécois de voter contre cette motion-là, surtout compte tenu du fait qu'ils en appuyaient les principes, on s'entend là, mais que là, on se retrouve dans un nœud du père où on met tous les bloquistes dans le panier d'être raciste et on sous-tend la réaction et les préjugés habituels du Canada anglais à l'égard des souverainistes au Québec. C'est racistes.
Bref, c'est dommage parce que ça vient maintenir la polarisation dans le débat alors que, comme tu dis, il pourrait de son poste, de sa situation, amener les gens au dialogue puis essayer d'avoir un dialogue fécond, mais là, au contraire, on est dans la polarisation à outrance. Emmanuel, le temps file, faut absolument, ben j'ai gardé le meilleur pour la fin, je pense, qu'on se parle des débats des candidats à la chefferie du Parti conservateur, mais particulièrement le débat français qui a eu lieu avant-hier.
Oh
tes impressions?
Silence. Je sais pas comment
ça veut tout dire.
À la radio. J'avais l'impression d'un débat à la présidence d'un club social dans un village, dans un trou perdu. Je veux dire, le niveau était... J'étais tellement mesquin, premièrement, là, à se crier après. C'était... Ouais. Comme ils ne maîtrisent pas le français, les uns et l'autre en étaient dans des slogans et des phrases creuses. Non, c'était désastreux. C'était moins désastreux que le débat équivalent à Québec en 2017, par ailleurs, où j'avais quitté avant la fin. Je vais t'avouer que même ce débat-là...
Je veux dire, là, avec le regretté Deepak.
Donc, ils ont fait un progrès par rapport à 2017, mais j'ai pas été capable d'écouter jusqu'à la fin.
Ah non, moi non plus.
J'en ai écouté 30 minutes, là, puis là, j'ai dit, regarde, je suis plus capable. Là. Je veux dire, il y a une limite là, à se faire souffrir et se faire violence dans la vie. Mais, ceci étant dit, au-delà de ça, je pense qu'on a vu... des efforts importants là, qu'ont fait Erin O'Toole et Peter McKay en français. Je pense que Peter McKay va avoir réussi par cette performance-là à en rassurer plusieurs et à faire oublier son lancement de campagne. Là. Mais c'est malheureux qu'on est en 2020 dans un pays où un parti qui est aussi grand que le Parti conservateur, qui a une aussi grande histoire dans notre pays, en 2020, se ramasse encore avec des candidats qui ont un niveau de bilinguisme des années 70, tu sais.
Ah oui, non, absolument.
C'est ça le constat, tu sais.
J'ai entendu bien des gens dire que Erin O'Toole et Peter McKay avaient le même niveau de français que Andrew Scheer. Je sais pas toi, mais moi, Andrew Scheer, à la fin, là, en campagne électorale, son français était meilleur que ce qu'on a entendu.
Non, mais qu'Andrew Scheer, au même moment. Et que, non, mais c'est ça qui est fou. C'est que, tu sais, ça change pas. Donc, Andrew Scheer, c'était correct parce qu'il avait le même niveau d'anglais que Harper quand il a été élu en 2002. Donc, tu sais, tu te dis, mon Dieu, en 2017, avoir un niveau de français de 2002, c'est acceptable. Puis là, on est rendu en 2020, puis avoir un niveau de français qui est de 2017, qui finalement est celui de 2002, est acceptable. C'est pas peu dire, là.
Ouais.
Et je veux dire, alors, c'est un parti qui n'a pas évolué sur ce front-là. Moi, je trouve que c'est malheureux. Mais ceci étant dit, je pense que Peter McKay va avoir atteint son objectif, qui était celui de rassurer qu'il n'était pas honteux en français. Et je te dirais que dans le débat anglais hier, on a vu toute l'expérience politique de Peter McKay.
Effectivement, parce que c'était totalement différent la dynamique hier, là, et moi j'ai trouvé qu'il, on cherche souvent là, l'aspect premier ministrable, tu sais, puis Erin O'Toole qui jouait beaucoup sur le fait que lui il est déjà là, lui il est déjà en chambre, il est prêt, mais un moment donné t'as aussi l'autre à côté qui a beaucoup d'expérience, qui a une façon de s'exprimer, qui nous fait penser à quelqu'un qui peut être chef d'un parti ou qui peut aspirer à devenir premier ministre d'un pays, là.
Oui, tu voyais le premier ministre en attente, là. Puis moi, j'ai fait le test, tu sais, la conciliation travail-famille. J'écoutais ça dans mon lit. Puis ma fille était à côté de moi, puis là, je lui expliquais c'était quoi. Alors, je lui ai dit, Clara, lequel a l'air d'un premier ministre?
Oh!
Là, elle a écouté. Puis, elle a 9 ans, là. Donc, elle était pas dans la... Tu sais, elle était dans le... Elle a dit, maman, je pense que c'est le premier. C'est lui. Puis là, elle m'a montré. Je dis, ah oui, tu trouves, hein? Elle dit, oui, oui. Elle dit, il inspire. Alors, moi, j'avais fait mon opinion, là. Je ne fais pas mon analyse basée sur le regard de ma fille, mais il projetait une autorité, il y avait une aisance, et il y avait, tu sais, dans un débat comme sur le racisme, là, où c'est un débat qui est difficile, mais qui, pendant longtemps, a été l'apanage du Parti conservateur. Faut pas oublier que c'est le Parti conservateur qui a mené la bataille contre l'apartheid. Donc, c'est pas supposé être un enjeu délicat pour eux. Monsieur McKay a mené ce débat-là de main de main, t'sais, en prenant de front l'enjeu des forces policières, de la représentativité dans la fonction publique, dans les forces policières, dans l'armée, et que c'est important non seulement par souci d'inclusion, mais parce que ces gens-là, de l'intérieur, finissent à aider à changer les mentalités. Il y avait une réflexion assez plus avancée que les autres là-dessus. Mais donc, c'est quand même une course qui est très serrée. Moi, je pense pas qu'il va avoir un couronnement facile au premier tour avec 70% du vote, là. Et c'est très clair que M. O'Toole, lui, fait campagne pour espérer gagner au deuxième tour.
Ouais.
Donc, en allant chercher les appuis des conservateurs sociaux, tu sais.
Donc, on va suivre ça pendant l'été. C'est le 21 août que ça va se dérouler, le couronnement du chef.
On va être revenu en onde. On va pouvoir en parler.
Ben oui. Hey, Emmanuel, ça a été un immense plaisir de collaborer avec toi pendant toute la saison. Je te souhaite une belle période estivale. Repose-toi bien, puis on se reparle très bientôt.
Très bien, toi aussi. Au revoir.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines.
Vous écoutez
Franchement dit.
On parle de politique américaine avec notre collègue Luc Laliberté. Salut Luc!
Oui, salut Jonathan. Notre dernière de la saison déjà.
Et on a quand même pas mal de choses au menu. Écoute, tu nous avais presque promis que le livre de M. Bolton, The Room Where It Happened, contiendrait des faits, des allégations troublantes, choc, explosives. Mais écoute, on n'est pas déçus là, avec ce qui sort en ce moment. Est-ce que c'est aussi pire que ce que tu aurais cru ou ça va encore plus loin même?
Non, écoute, ça a l'air un brin prétentieux de te dire ça comme ça, mais c'est exactement ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire que si on remonte, et nos auditeurs ont peut-être déjà oublié Fire and Fury ou Fear de Bob Woodward, mais on a déjà eu beaucoup de livres qui arrivent tous, qui parviennent tous à la même conclusion. On peut dire après ce qu'on a exagéré, ce que les sources sont toujours fiables, et là, les productions sont d'inégale valeur, mais on rappelle toujours la même chose. Tout tourne autour du président, il ne recule devant rien. Il n'a pas de respect pour la morale, pour l'éthique. Il y a de l'improvisation. Souvent, il y a aussi de l'incompétence autour de lui parce qu'il a fait le ménage dans tous les gens qui avaient de l'expérience, lui disant toujours, ben écoutez, moi je m'en remets à l'état profond. Hein. Tous ces gens-là qui prétendent savoir de quoi ils parlent et qui me conseillent, ben ils sont là uniquement pour empêcher des changements. Donc, il a fait le vide autour de lui, ou à peu près, pour s'entourer, soyons honnêtes, et je n'hésite pas à l'utiliser, pour s'entourer d'amateurs. Ce que révèle Bolton, donc, c'est ce qui est important, ce qui est intéressant, essentiellement, c'est que ce sont des informations de première main. On peut le nier, reste que Bolton était là, effectivement, et qu'il a été mêlé à de très, très grandes décisions, puis à des tractations majeures. Donc, bien entendu, on ne va pas valider toutes ces informations-là. Là, entre autres, quand M. Bolton dit, il est plein de merde, le président, il échange, en fait, c'est le secrétaire d'État Pompeo qui envoie ce document-là à Bolton, il s'échange un petit papier pour dire « he's full of shit ». M. Pompeo, qui est toujours en service, ne va pas dire « bien sûr, j'ai rédigé cette note-là moi-même puis je l'ai envoyée à Bolton », mais il insiste lui plutôt sur des demi-vérités. Reste que le livre de Bolton, c'est une confirmation de plus, c'est un témoignage qui va dans le même sens que tous les autres. Et si on pouvait dire, par exemple, de Fire and Fury, qu'on ne cherchait qu'un succès de librairie, c'est le premier, leur ouvrage important et très controversé. Si on a remis en question les sources, plus on avance dans le temps, plus ce sont des journalistes crédibles comme Bob Woodward ou des anciens de l'administration qui écrivent au sujet du président. Et personnellement, je me répète, je ne suis pas étonné.
Au niveau des médias sociaux, une autre semaine difficile pour Donald Trump. Puis je pensais à notre collègue Emmanuel Latraverse en regardant ça aller, parce qu'Emmanuel, elle, dénonçait le fait que Facebook laissait aller des pratiques qui sont condamnées ailleurs, notamment par Twitter. Mais là, Facebook a décidé cette semaine, hier en fait, qu'il y avait une publicité qui est en lien avec la campagne de Donald Trump qui ne passait pas la rampe, là.
Voilà, puis tu vois, un peu comme, c'est bien que tu précises, Emmanuel, parce que j'ai songé un temps, moi aussi, à ne plus être sur Facebook. Puis après ça, je me suis dit, j'en tire encore plus de profit en faisant véhiculer de mon côté ou avec les amis des productions un peu plus appuyées, un peu plus fouillées et recherchées, mais c'est problématique. Et là, on voit ce qu'on constate dans le bras de fer, au-delà du contenu de ce que fait véhiculer le président Trump, c'est qu'on semble de plus en plus enclin du côté des plateformes à le bloquer ou à tout le moins à nuancer ses propos ou à faire des mises en garde. Ce qu'on aurait fait pour toi et moi, on en avait déjà discuté, on ne le faisait pas pour le président américain. Et là, de plus en plus, on le fait. Et moi, je pense que l'intervention de Facebook, d'abord, ça va, s'il y a une chose positive là-dedans, c'est que ça va accélérer le débat et mettre un peu plus de pression. Doit-on laisser circuler n'importe quoi au nom de la liberté d'expression ou si on applique à ces plateformes-là les mêmes règles ou le même encadrement de la liberté d'expression dans les médias plus traditionnels ou pour ce qu'on est en train de faire, par exemple, tous les deux, à la radio. Donc, moi, je trouve ça positif. Et écoute, quand on est rendu dans une campagne présidentielle, au-delà du fait que c'est le président des États-Unis qui valide tout ça, là, mais quand on est rendu à faire circuler des symboles nazis, et c'est ce qu'on a reproché, c'est ce que Facebook a reproché à la campagne de Donald Trump, on est rendu quand même très loin, là, quand on parle de liberté d'expression. Quand le président, par l'intermédiaire de Twitter, fait lui-même circuler une vidéo trafiquée qui est déjà connue comme étant une vidéo trafiquée pour passer un message à connotation raciale, je répète, on peut toujours discuter du fait que c'est le président des États-Unis, mais reste qu'on enfreint assurément les limites normales, habituelles de la liberté d'expression. Alors, je trouve le phénomène, au-delà de Donald Trump, dont on peut aussi jaser, je trouve le phénomène très intéressant.
Absolument, absolument. Je trouve ça bien de voir que là, Facebook agit dans ce cas particulier-là. Je disais, semaine difficile pour Donald Trump, il n'y a pas que Facebook là, qui l'a rabroué, il y a la Cour suprême qui, dans deux jugements en particulier, vont à l'encontre de ce que prône Donald Trump, deux revers majeurs pour lui, alors qu'il est supposé d'avoir placé ses pions à la Cour suprême, le président américain. Là.
Voilà, il y a encore là deux angles que j'aime bien adopter en analysant tout ça. D'un côté, bien sûr, les victoires ou les défaites, selon le camp dans lequel on est, mais donc deux sujets d'importance, les droits de la communauté LGBT d'un côté, et le fameux cas des Dreamers, hein, ou de ces gens qui sont nés aux États-Unis, mais dont les parents étaient des immigrants illégaux, puis qui doivent régulariser leur situation constamment. notamment. Donc ça, ce sont deux enjeux qui vont d'ailleurs revenir dans la prochaine campagne électorale. C'est très clair que républicains et démocrates ne jouent pas les mêmes cartes dans ces deux dossiers-là. Donc on vient d'obtenir deux victoires. En même temps, ben, méfions-nous toujours de M. Trump sur la question des Dreamers ou encore des droits de la communauté LGBT, parce que le cas des Dreamers, par exemple, c'est un cheval de bataille. C'est le mur, c'est l'immigration, hein, c'est la protection des Américains. Donc ça, il devrait revenir à la charge avec ça. On en entendait moins parler. La décision de la Cour suprême risque de ramener ça de l'avant, puis il va dire, en gros, réalisez-moi encore pendant les quatre prochaines années, puis je la changerai complètement à la Cour suprême éventuellement, puis on aura des décisions favorables. Donc, il y a le jeu politique. De l'autre, moi, ce que j'aime bien, et encore là, je répète souvent ça aux auditeurs ou dans mes textes, oublions le président ou la présidente éventuellement, mettons ça de côté, puis regardons tout simplement l'indépendance des institutions aux États-Unis. Il y a une séparation des pouvoirs, il y a le président, il y a le Congrès, il y a la Cour suprême. Mais là, on constate que malgré deux nominations de juges plus conservateurs, hein, M. Gorsuch et M. Kavanaugh, on voit que la Cour est indépendante. Si on avait vrai, on a une majorité conservatrice maintenant, 5-4, plus progressiste, si on avait vraiment une étiquette politique, dans les deux cas, il y aurait eu de fortes chances qu'on penche du côté des intérêts du président ou encore des intérêts des conservateurs ou des républicains. Le juge Roberts, qui est le juge en chef, s'est rangé cette fois-ci dans les deux cas du côté des quatre juges plus progressistes, puis on va à l'encontre de la volonté de l'administration. Donc, ce qu'on vient de démontrer, c'est que même si nous, on couvre ça souvent en disant ce sont des nominations progressistes ou des nominations conservatrices, la Cour suprême demeure indépendante. Et c'est pas la première fois qu'on a une surprise. Le juge Roberts a déjà voté ou s'est prononcé en faveur, par exemple, du maintien d'Obamacare. Alors, c'est une décision importante, ça aussi, si on parle d'enjeux politiques.
Et, tu sais, on a vu souvent le président américain procéder à des nominations dans son entourage, des postes de secrétaire, et c'est les meilleures personnes sur la planète, et là, soudainement, deviennent des incompétents, sont limogés, etc., sont reniés, mais là, ces deux juges à la Cour suprême, là, tu sais, il peut plus, il a commencé à leur rentrer dedans, mais je veux dire, il a quand même mis son poids politique dans la balance, ce sont des juges à la Cour suprême, indépendants, il est pris avec, là.
Voilà. Puis habituellement, on parle de courant idéologique, hein, c'est-à-dire de philosophie d'interprétation de la Constitution. Mais il y a quand même des bases sur lesquelles on l'oublie très, très souvent, mais sur lesquelles les neuf juges vont s'entendre. Il y a des choses qui sont, entre guillemets, immuables dans la Constitution américaine. Ce que M. Trump espère maintenant que la Cour est majoritairement républicaine, c'est qu'elle penche à chaque fois de son côté, même quand lui ou son administration ou un projet de loi qui émane d'une autre organisation, mais lui espère toujours que cette Cour là penche du même côté, même quand on contrevient aux bases de la Constitution américaine. Et c'est là où moi j'aime bien, si on veut que le système se maintienne, ou à tout le moins qu'on n'ait pas dénaturé complètement ce système-là, il faut qu'on soit en mesure de constater régulièrement qu'il s'agit vraiment d'un pouvoir indépendant. C'est beaucoup moins clair quand on parle du législatif et de l'exécutif, parce que là on n'a pas le choix de négocier ensemble. Mais quand on se retrouve devant la Cour suprême, ben normalement, peu importe qu'on ait une philosophie plus conservatrice ou progressiste, les neuf s'entendent au moins sur des bases communes. Le document n'est pas si différent que ça dans tous ses aspects. Donc, moi, j'aime bien ce rappel de la séparation des pouvoirs puis de l'indépendance de la Cour suprême.
Absolument. Avant qu'on se quitte, Luc, on doit faire notre point quotidien sur la course au poste de candidat candidate à la vice-présidence coalitionnaire de Joe Biden. Et là, il y a une des personnes qui était, bon, prétendante, mais de plus en plus, tu mentionnais que son étoile pâlissait, là, Amy Klobuchar, qui se désiste carrément.
Voilà, puis elle le fait de façon, quand on dit que les démocrates parfois peinent à jouer en équipe, j'ai trouvé qu'Amy Klobuchar hier jouait en équipe, elle jouait l'alliée parfaite. C'est-à-dire, j'ai les compétences, puis ça, je pense que les gens le reconnaissaient. Là. Elle vient d'un État qui à la limite, un État pivot. En tout cas, elle vient du Midwest, des Grands Lacs. Puis, elle a les compétences et l'expérience nécessaires pour servir comme vice-présidente. Pendant longtemps, avant, en tout cas, les soulèvements, les manifestations, après la mort de George Floyd, son nom circulait beaucoup. Mais là, elle a décidé carrément de jouer en équipe en disant, écoutez, je vais suivre Joe Biden, je vais tout faire pour qu'on gagne, mais je pense qu'on est à un moment historique et que Joe Biden doit choisir une candidate noire. Donc, c'est la confirmation qu'elle retire sa candidature, mais en même temps, on passe le message que Joe Biden est près de la communauté noire, puis qu'on est prêt à serrer les coudes puis à jouer en équipe. J'écoutais Kamala Harris hier ou avant-hier, à l'émission de Stephen Colbert, puis elle a dit, écoutez, mettez pas la charrue devant les bœufs, ça c'est de bonne guerre qu'elle dise ça, mais il faut tout faire pour l'emporter. Elle est actuellement la candidate, elle est au premier rang, menacée ou approchée par deux autres candidates, le Val Demings, puis Mme Lance Bottoms, la mairesse d'Atlanta, mais on voit que tout le monde fait très attention à projeter, à envoyer le même message, à projeter la même image, et qu'on doit, on en avait déjà discuté tous les deux, il faut que le message à la communauté noire, ça dépasse les mots et qu'on pose des gestes. Et moi, je t'avais déjà dit, Joe Biden, sa marge de manœuvre, elle est restreinte actuellement. Il lui faut une candidate noire, c'est ce que je crois depuis plusieurs semaines déjà, et je pense que c'est ce à quoi on aura droit. Puis pas une candidate noire parce qu'elle est noire. Il y a tellement de femmes compétentes actuellement sur les rangs que Joe Biden a un très beau problème entre les mains. Il a à jouer sur les forces de chacune, mais il va absolument tirer du chapeau une bonne candidate.
Ça va être fascinant de suivre ça. Puis écoute, à l'automne, ça va être un automne politique absolument chargé qu'on pourra suivre ensemble. Luc, un immense plaisir toujours de discuter avec toi, de collaborer, d'échanger sur la politique américaine. Je te souhaite un superbe été, puis merci pour tout.
Écoute, un plaisir partagé, puis très bel été à ton petit clan et à toi, Jonathan.
Merci, salut.
Bye.
Vous écoutez
Franchement dit.
On va poursuivre avec l'actualité, avec Maude. On le mentionnait tantôt, le ministre des Finances, Éric Girard, qui a fait une mise à jour économique. En gros, on est dans le trou.
En gros, on se dirige vers un déficit historique de 14,9 milliards de dollars. Pour 2021, donc la pandémie a forcé l'arrêt. Il a donné quelques chiffres là, en rafale par rapport notamment à la pandémie que j'ai retenue. Ça a forcé l'arrêt de près de 40 % de l'économie quand même, une perte de 820 500 emplois. Le coût total de l'épidémie de COVID-19 qui est évalué à 6,6 milliards de dollars. Au total, les dépenses en santé et en services sociaux pour 2020-2021, on va en dépenser 3,5 milliards de plus que ce qui était prévu. Donc, on va dépenser environ 51 milliards de dollars pour ce qui est de la santé. On a eu de la misère hein, avec nos équipements de protection. Ouais. Juste en masques, blouses et gants de protection, Québec va dépenser cette année environ 2,3 milliards de dollars.
Wow! Hey, c'est de l'argent
pareil. Énorme, là. C'est énorme. Puis on se rappelle aussi des bourdes qu'il y a eu là, en début de pandémie où on courait partout pour essayer de trouver des masques puis qu'on s'est fait un peu avoir avec certains entrepreneurs qui finalement nous ont, en bon québécois, fourrés.
Oui.
C'est pas mal ça qui s'est passé. Près de 500 000 tests de dépistage du coronavirus ont été effectués à travers la province jusqu'à maintenant. C'est une dépense de 25,7 millions de dollars. Et le ministre Éric Girard qui nous disait qu'avec un objectif quotidien actuellement fixé à 20 000 tests, le gouvernement prévoit des dépenses qui peuvent aller jusqu'à 200 millions de dollars quand même là, d'ici la fin de la présente année financière. L'impact de l'épidémie, sinon, sur la dette brute du Québec, c'est pas négligeable. En 2021, on prévoit que ce sera de 222 milliards de dollars. Un retour à l'équilibre budgétaire qui est prévu d'ici 5 ans. On met sur une croissance notamment économique de 6 % d'ici décembre 2021. Et le ministre aussi, bien important, qui s'est engagé à ne pas taxer ou imposer davantage les contribuables pour y arriver.
Et là, c'est à espérer qu'il n'y aura pas une deuxième vague, là, puis qu'on n'aura pas de confinement. Je pense que personne s'attend à ça, t'sais, qu'on retourne à un même niveau de confinement ou d'arrêt là, au niveau économique. Mais j'entends les gens qui vont dire c'est épouvantable qu'on se soit mis dans cette situation-là pour une grosse grippe, là, parce que ça va encore venir. Là. ce matin, là, il y avait un article, c'était dans la presse, là, où il y a une comparaison qui est faite, comptabilisation du nombre de décès. C'est 48 % de plus de décès qu'on a eu au mois d'avril au plus fort, là, qu'à des années de référence. C'est 48 % de plus. Fait qu'arrêtez de me dire que ça mourait autant qu'avant. C'est pas vrai. Et en passant, breaking news qui vient de sortir, pendant que tu faisais ta nouvelle, là, c'est CNN qui rapporte que l'État de la Floride a enregistré en un seul jour 4000 nouveaux cas de coronavirus. C'est le record. C'est le plus grand nombre de cas dans cet État-là depuis le début de la pandémie. Donc, il y a des endroits, là, tu sais, ça repart.
Ben, juste en Chine, on parlait cette semaine des écoles qui ont reconfiné. Le ministre Girard qui a dit par ailleurs là, que la deuxième vague, là, ils y ont pensé, que c'est prévu dans tout ce qu'il a présenté ce matin. Là, on en tient compte. C'est pas comme quand il avait déposé son budget puis qu'on n'avait pas vraiment tenu compte du coronavirus parce qu'on n'était pas rendu là. Ben, voilà.
OK. Dans le domaine du frustration en lisant le journal ce matin, le premier anniversaire de la fraude historique chez Desjardins, de voir que personne d'arrêté là-dedans. On soupçonne qu'il y en a peut-être un qui va être arrêté, mais il y en a d'autres qui probablement devraient bien s'en tirer. C'est ce qu'on apprend ce matin. C'est assez incroyable. Un an plus tard, toujours rien de fait.
Puis quand c'est arrivé, on se disait, tabarnouche, chadon, ben pas de bon sens. 4,2 millions de membres et 1,8 million de détenteurs de cartes de crédit qui sont touchés, dont les informations personnelles ne se seront plus nécessairement, jamais en sécurité. On se disait, ça va brasser, ça va aller vite. Puis on avait l'impression au début que c'était ça. Mais finalement, ben le plus important vol de données confidentielles de l'histoire du Québec, il n'y a personne qui est encore tenu responsable. Le bureau d'enquête nous apprend ce matin qu'on a de la difficulté à traduire en justice tout le beau monde qui serait impliqué. On n'arrive pas à prouver que les financiers qui sont soupçonnés d'avoir racheté les données savaient qu'elles avaient été volées. Donc, sciemment, en payant, ils disaient « Ah ouais, ceux-là, ils ont été volés, donc je vais les acheter quand même. » On n'est pas capable de prouver qu'ils savaient.
Ouais,
le prêteur privé Mathieu Jonca, son associé François Baillargeon-Bouchard et le courtier Marc-Olivier Tanguay plaident tous l'ignorance. Il y a des accusations qui sont plus probables dans les dossiers de Sébastien Boulanger-Dorval. C'est l'ex-employé de Desjardins qui se serait emparé des informations. Et aussi
Jean...
Ben oui, Jean... Non, ça, c'est Jean-Loup Leulier-Mauche. C'est celui qui les aurait achetés pour une coupe de cartes de cadeaux aussi, là.
C'est ça, mais il a payé à Sébastien Chose.
Ouais,
il l'a payé en carte de cadeau.
Exactement. Oui.
Regarde, vole-moi ça, là. M'a donné 3-4 cartes de cadeau chez Saint-Hubert. Puis...
La bonne salade de choux crémeuse, vous êtes additionnel, tu choisis mon homme. Donc, l'enquête de la Sûreté du Québec sur le vol des données a commencé en septembre 2019 quand même, avec une vague de perquisitions et 17 personnes d'intérêt qui ont été interrogées. La masse d'informations que la police avait récoltée à ce moment-là est tellement considérable que la police a toujours pas fini de l'analyser 8 mois plus tard. Et by the way, si vous vous attendiez à entendre Guy Cormier faire une espèce de bilan, un retour de comment ça se passe chez Desjardins présentement, quelles actions ils prennent, où ils en sont, ben Guy Cormier ne donne pas d'entrevue.
Ouais. Enfin, il avait été quand même actif et présent dans les premières semaines.
Ouais. C'est plus le cas.
Je sais pas si je lui aurais conseillé de sortir, parce que je veux dire, il n'y a pas d'éléments nouveaux, justement. Là, c'est entre les mains de la police, mais il aurait pu...
Ben, juste
pas, il aurait pu au moins une communication. Là,
ouais, rassurer. Minute, là, juste pas laisser dans le néant tous ces gens-là qui ont été touchés, dont je fais partie, dont je sais pas si toi tu fais partie, mais moi j'aurais aimé ça qu'ils me disent, hey, juste pour dire, là, même si c'était des liners plates, là, juste pour dire, on continue à travailler là-dessus, on collabore avec la police, on a mis telle mesure en place, ça va se poursuivre jusqu'à... J'aurais aimé ça.
Ouais, c'est ça. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Maintenant, tu nous parles des centres commerciaux. Il y a nous autres ici, dans la région de Québec, on a l'impression que tout est ouvert depuis tout le temps, là, mais...
C'est pas le cas.
C'est pas le cas partout?
Non, vous, depuis 3 semaines, vous pouvez aller magasiner, aller dans le centre d'achat, prendre des marches, si ça vous tente. Mais les centres commerciaux de la communauté métropolitaine de Montréal et de la MRC de Joliette n'étaient pas autorisés jusqu'à aujourd'hui. À partir de là, là, sont ouverts. Les mesures sanitaires recommandées par la santé publique devront être respectées. Fait que ça se peut qu'il y en ait des fils dedans le centre commercial pour rentrer dans un certain commerce. Il y a les aires de restauration, par contre, qui sont encore fermées pour 3 jours. Okay. On ne les a pas autorisées. On va les autoriser à partir de lundi. Raison? Aucune. Je sais pas pourquoi. je n'en ai aucune idée. Ce matin, Benoît disait, c'est le fun, tu sais, ça rouvre, les centres commerciaux, on va pouvoir aller s'asseoir à l'air climatisé parce que ça tombe bien, vague de chaleur qui va durer une couple de jours. Il dit, on va pouvoir aller s'asseoir puis boire un petit café, boire de l'eau chaude. Mais non.
Pas pour les 3 premiers jours.
Non, ça a l'air que non.
J'imagine peut-être réouverture graduelle. Pour faire durer le plaisir. Mais bon. Ouais, c'est ça. Mais tu es rendu là 3 jours de plus, 3 jours de moins. Là,
pas si grave.
Vous allez pouvoir retrouver ce plaisir-là rapidement. Avant qu'on se laisse, tu nous parles du bal mammouth.
Oui.
Écoute, je veux dire un truc avant, parce que parler du bal mammouth, il y en a qui ont des bonnes idées. Là.
Mm-hmm.
À quelques maisons de chez nous, sur le coin de la rue, il y a 3 jeunes dimanche. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça le dimanche, là, mais. Qui se sont fait un genre de, comme dirait Régis Labon, se sont tricotés un genre de balle de finissant. Il y était 3 gars. Et là, ils peuvent pas avoir de party ou quoi que ce soit. Donc, à un moment donné, au début de l'après-midi, ils se sont installés sur le terrain, les 3, en respectant la distanciation. Il y avait des parents, leurs parents respectifs, qui étaient de loin, qui ont pris des photos. Et ils ont mis des gigantesques pancartes à terre, là. Puis c'est sur le bord de la route l'Allemand, là, qui est une rue très, 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 très passante, là. quasiment un boulevard, là, des grosses pancartes que tu voyais dans de chaque côté marquées Honk and we drink. Klaxonner et on boit.
Wow.
Donc, au début, ils se faisaient klaxonner parce que les gens disaient, ah, tu sais, garde ça, ils sont en habit de balle. Mais écoute, un moment donné, moi, je suis ressorti dans la soirée, je cherchais de quoi, il était rendu 8 heures.
Il était encore
beau. Il était assis sur une chaise avec une montagne de canettes de bière sur le gazon.
Voyons donc.
Et chaque auto qui klaxonnait, les gars, prenaient une gorgée. Il était chez les parents de quelqu'un, respectait la distanciation. Je pense pas que personne était pour prendre leur auto. C'était comme, regarde, c'était leur bal définissant. Puis le monde, les voisins à côté devaient être un petit peu tannés. Moi, de chez nous, on l'entendait un petit peu moins. Ils étaient comme à 5-6 maisons.
C'est sûr.
Ça a klaxonné comme de 2h l'après-midi à. Tu sais, ils ont arrêté, je pense, à 8h30 le soir, mettons, peut-être. Là. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment original.
C'est
bref,
comme le bal et l'après-bal rassemblés.
C'est ça, exactement. Exactement. Ouais. Mais pour certains, le bal mammouth, ça va être l'occasion. C'est pas parfait, mais ça va être l'occasion de souligner la fin de leur parcours scolaire secondaire.
Parce qu'on en a beaucoup des jeunes qui graduent aujourd'hui. On parle de 90 000, ben aujourd'hui, dans les prochains jours, si ce n'est pas aujourd'hui même, 90 000 jeunes qui terminent leur parcours au primaire. Et on parle de 71 000 adolescents qui ferment le chapitre de 5 ans au secondaire. Le bal mammouth, c'est animé par Sarah-Jeanne Labrosse et Pierre-Luc Funk. Il y a un avant-party sur Instagram, 19h30. Avec Mathieu Dufour, Matt Doff pour les intimes, qui faisait le coronavirus pendant les derniers mois de pandémie. Dès 20h, c'est à Télé-Québec et sur télé-québec.tv. Des invités comme Marie-Mé, Bleu Jeans Bleu, J. du Temple, Charlotte Cardin, Rosalie Vaillancourt, Kate Lessard. Je peux toutes les dire, mais ça va être trop long. Donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde. Ça risque d'être bien le fun. Puis après, ben, ça prend un après-bal. Ce sera encore une fois avec Matt Doff sur Instagram. Puis il y a un autre après-bal samedi. Cette fois-ci, animé par Marie-Pierre Morin et Julien Lacroix. Là, ça n'a rien à voir avec le bal mammouth, mais je voulais quand même le mentionner. C'est en direct sur Instagram, Facebook, YouTube, Twitch, tous les réseaux sur lesquels vous pouvez aller. Allez-y, 21h, c'est le coup d'envoi. C'est un événement qui est gratuit. On a décidé de joindre l'utile à l'agréable en amassant des fonds pour la Fondation des Étoiles. Ça risque d'être le fun, ça risque d'être assez pété.
Ben oui.
Je pense qu'il va se passer bien des affaires.
Ça m'inquiète pas trop.
Puis Marie-Pierre Morin qui est bien de party, ça devrait y aller.
Ouais. Mais profitez-en, les runs. Profitez-en. Ce sera pas le bal que vous imaginiez, mais il va y avoir moyen d'avoir du fun. Il y a des gens qui pensent à vous. Trouvez le tour de vous unir. Certains rassemblements qui sont possibles. Bref.
Puis on peut-tu parler aussi, juste une seconde d'écart, de toutes les personnes qui mettent aujourd'hui des photos d'eux lors de leur bal de finissant jadis?
Ah, j'ai pas vu ça.
Il y a des perles. Allez voir sur l'Instagram de Geneviève Peterson. Voyons, j'ai-tu chié son nom ou j'ai pas chié son nom? Richie.
Peterson.
sur l'Instagram de Geneviève, je pensais que c'était sa mère, je l'ai pas reconnue.
Ah oui? Je vais aller voir ça. Je vais aller voir ça pendant la pause. OK, on va essayer d'en trouver une de moi aussi peut-être. Merci Maud, on fait une pause et on revient, bougez pas.
Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit.
Cube Radio.
Maud, je trouve que c'est une belle habitude, compris les patrons de Cube, de faire carrément une nouvelle grille horaire pendant l'été. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui essaie de venir faire le même show que quelqu'un d'autre, mais qui est pas cette personne, tu sais.
Qui s'enferge moins que toi, tu sais, aussi.
Exactement.
C'est une blague, c'est une blague. Quand je vais m'ennuyer, j'ai le droit de te chialer un peu.
Ouais, OK. Mais bref, je trouve ça le fun, tu sais. Puis, en semaine, donc, Pierre Nantel, vous avez pu l'entendre avec Benoît Dutrisac, le très coloré Pierre Nantel qui va être à la bande de l'émission du matin de 7 à 10. Mm-hmm. Et là, nous, de 10 à midi, on prend un clé de char et on les confie. Je sais pas si on fait exprès. Je sais pas si on fait exprès pour les confier à elle, sachant notre historique, notre pensée à la joute. On confie les clés de char à Caroline Saint-Hilaire. Je suis partagée entre le bonheur et tristesse, mais quand même, on va aller la retrouver. Salut, Caroline!
Elle te salue, elle vous salue. Écoute, tellement contente. Écoute, je pouvais pas rêver mieux le créneau de Jonathan Trudeau et Maud Boutet. Très, très contente. Et contente de vous parler aussi aujourd'hui.
Vraiment content. On a eu l'occasion de s'échanger un peu pendant la pandémie. On s'envoie souvent des messages textes. On s'est appelé une fois ou deux, mais avec quelques mots de recul.
Les gens pensent qu'on s'aime pas. Mais on s'envoie des mots d'encouragement aussi.
Oh. Mais je pense que des fois, on s'ennuie un petit peu de s'écœurer.
Ouais. Pas mal. On s'ennuie pas mal.
Il semble me pogner aux cheveux bien comme fou avec toi, là.
Attends-tu qu'on y aille tout de suite, là?
Non, pas tout de suite. Attends. Mais comment ça a été ta pandémie? Comment t'as vécu ça, Caroline?
Ah, la pandémie, mon Dieu. Attends que je m'allonge. J'ai vécu ça d'une drôle de façon. Au départ, je t'avouerais que sur le plan personnel, là, j'ai vécu ça très difficilement parce que, bon, on avait des travaux à la maison, donc on s'est retrouvés dans un petit condo à Québec avec mon chum, avec mon aîné qui, dans le fond, on a squatté un peu son appartement, qui, ben, ouais, qui est le nôtre, mais qui est le sien pendant sa scolarité. Alors, on s'est retrouvés avec beaucoup, 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 beaucoup trop de proximité parce que moi, je suis une bibitte très sauvage. Et donc, partager tout cet espace-là, j'ai trouvé ça très difficile. Et en plus, bon, mon fils a quand même une maladie oui, qui doit protéger beaucoup sa santé. Donc, j'avais encore une petite angoisse de maman, même s'il a 21 ans. Tu le sais, Jonathan, ça reste quand même nos enfants. Oui. Alors, j'ai vécu ça difficilement sur le plan personnel et sur le plan même professionnel. Je t'avoue, en fait, je vais vous faire une petite confidence. Je pense que c'est la première fois que j'ai regretté de ne pas être en politique. Oui, parce que je trouvais que je me sentais pas utile. J'aurais tellement voulu contribuer d'une quelconque façon. Et même, écoute, j'avais même donné mon nom pour retourner comme préposé aux bénéficiaires. Je me suis dit, il faut que je me rende utile d'une quelconque façon. Bon,
c'est vrai, hein? Elle m'a écrit, on s'est échangé, puis Karine m'a dit, okay, je suis proposé d'être bénévole. Je dis, quoi?
Ben oui,
c'est différent. En plus, avec toi, ton fils qui a une déconstruction particulière, c'était pas une bonne idée, mais ça illustrait à quel point tu tournais en rond et tu voulais faire quelque chose. Tu sais.
Oui, c'est ça. Fait que là, tout le monde autour de moi était bien tanné de toutes mes idées. J'ai probablement créé 300 entreprises en dedans de 30 jours. Là. Fait que, oui, c'est ça. J'avais plein d'idées. J'ai dû me réconcilier justement avec ce changement de vitesse, ce paradigme-là où tu dois ralentir. Moi, j'ai juste une vitesse, c'est vite. Où j'arrête tout. Et là, de tout arrêter comme ça, alors que tout est arrêté dans l'univers, je sais pas, j'avais comme un... Je vivais un paradoxe, je me sentais pas bien, tu sais, me promener, parce que, je marchais entre 10 et 15 kilomètres tous les jours pour pas tuer quelqu'un, et ça me faisait du bien, mais marcher tout seul dans les rues, je trouvais ça triste, tu sais, des boules d'angoisse, tu dis, ça n'a pas de sens. J'avais l'impression d'être dans un mauvais film et vraiment, j'avais pas le bon casting. Moi, je suis du genre à tout attraper, à tout courir, à être un peu partout. Et là, je trouvais ça difficile, honnêtement. Mais après, c'est comme si j'avais apprivoisé ce changement de paradigme, ce changement de vitesse.
C'est ça. C'est ça que j'allais te demander. Est-ce que tu en retires quelque chose? Parce que là, justement, bon, là, tu vas recommencer à faire de la radio pendant la période estivale. Éventuellement, il y a d'autres activités qui vont reprendre. Mais est-ce que tu en retires quelque chose? Tu dis-tu, il y a quelque chose de cette expérience-là que je veux pas laisser partir? Ou au contraire, tu dis, hey, let's go, genre de remettre la pédale au fond, puis je reviens comme avant?
Écoute, un peu des deux. Il y a des fois où j'ai envie de reprendre la pédale au fond, puis tout ça, puis puis en même temps, là, tu vois, on est revenu un peu plus à la campagne. J'haïs pas ça, le rythme plus au ralenti aussi, mais je pense que c'est une question d'équilibre, un peu des deux. Et peut-être que c'est ça que j'aurais appris, c'est que oui, des fois, on peut aller vite et on peut vouloir changer le monde, puis c'est correct de vouloir le faire. Mais je me sens plus coupable d'être au ralenti. Je pense que je suis réconciliée avec la notion de lenteur, mais dites-le pas à mon mari parce que je veux que ça se passe vite à la maison, les travaux. Puis je suis réconciliée avec un petit peu de ralenti, là.
Tu sais, il y a la notion aussi que le début de tout ça, tu sais, la pause, ça a été forcé. Tu sais, c'est pas toi qui as choisi de ralentir. On te l'a imposé. Fait que ça, pour beaucoup de gens, ça a comme fait une grosse coupure, puis là, ben, tu vas pouvoir choisir toi-même de ralentir puis d'adopter le beat que tu as découvert durant la pandémie.
Bon, tu as tellement raison, parce qu'en fait, certaines personnes de mon entourage me disent qu'eux autres le savaient, mais moi, j'ai appris que je suis foncièrement une rebelle, une délinquante. Alors, il s'agit que tu me dises quoi faire pour que j'ai pas vraiment envie de le faire. Alors, quand tu me forces à arrêter, on dirait que c'est contre nature. Mais bon, probablement que si on m'avait forcé d'arrêter, tu sais, si on m'avait dit, Caroline, arrête, ce serait mieux que t'arrêtes, j'aurais dit, ben non. Mais là, quand t'es obligé, je veux dire, c'est une question de sanitaire, une question de santé publique. Alors, j'ai appris à ralentir un peu.
Puis est-ce que Maca, j'ai vraiment une question niaiseuse, est-ce que Maca continue encore à laver les œufs? Je me demandais ça parce qu'il faut savoir que Maca lavait les œufs toi. Il leur faisait un petit bain, là.
Écoute, mais d'accord. En fait, il était un peu intense parce que bon, il avait peur pour mon fils parce qu'il avait tellement peur qu'on. En fait, eux autres, ils sortaient presque pas. C'était moi qui faisais l'épicerie puis tout ça. Puis de toute façon, ça leur donnait, comme je disais, un break là. Mais il a cessé de laver les œufs parce qu'on nous a expliqué que c'était pas une bonne idée. Fait qu'on on a un peu grossi la blague, on va se le dire là. Mais oui, il passait tout à l'épicerie là, tout passait au lavabo, au désinfectant. Mais il a cessé de laver les œufs un après les autres. Mais tu sais, il passe un petit peu d'eau des fois, tout ça. Mais bon, c'est calmé un peu.
OK, dis-moi, la radio, le retour à la radio, c'est la deuxième saison. Bon, je pense que t'étais un peu terrorisé l'année dernière. On s'en était parlé encore là. Je sais que ça te stressait pas mal. Là, est-ce que tu reviens avec plus de confiance? Comment ce défi-là des deux prochains mois, tu l'envisages?
Ben oui, avec plus de confiance, puis on va se le dire, vous le connaissez, Benoît Dutrisac, quand t'as passé une année à travailler tous les matins avec Benoît Dutrisac, t'es prête pour tout. mais c'est une excellente école, et c'est ce que je disais ce matin, écoute, côtoyer Benoît Dutrisac tous les matins, ça force à préparer à peu près tous les scénarios. C'est sûr que Jonathan Trudeau ajoute, il laisse pas sa place, là, mais Benoît Dutrisac tous les matins, je t'avoue qu'écoute, j'avais beau préparer angle A, angle B, angle C, des fois, il arrivait angle Z non préparé. Donc, c'est très formateur. Alors oui, je suis plus confiante, plus sereine. Puis j'ai apprivoisé plus la bête de la radio. Là, c'est sûr que là, je serai pas au quotidien avec Maca, donc je suis un peu plus toute seule. Mais j'ai des collaborateurs, des collaboratrices, écoute, exceptionnelles. Bon, des gens que vous connaissez, là, t'es Claude Villeneuve du Journal de Québec, Mathieu Bocouté qui va être là tous les jours, Joseph Facal, très contente, Emmanuel Latraverse aussi, hein, qui a été au cœur de la pandémie à TVA pas mal tous les jours. Et on essayait aussi d'aller, tu sais, un peu votre créneau, on a un petit peu plus de temps de 10 heures à midi, c'est pas comme l'émission du matin ou de fin de journée où c'est sûr qu'on reste dans l'actualité.
C'est moins des services, là.
Oui, c'est ça, et j'ai voulu garder, en fait, on va ouvrir tous les matins avec Varda et Étienne.
Wow! Hein, donc,
ça va brasser. Je pense qu'on va aller complètement ailleurs. Deux femmes, disons-le, assez tête forte. Moi, Varda et Étienne, là, je vais vous le dire, je passe à une deuxième confidence. Là. Elle a probablement sauvé ma santé mentale, sauvé mon couple et j'ai peut-être pas tué mon fils parce que Varda me faisait tellement rire. Là. Il faut aller sur ses réseaux sociaux. Elle est tordante, elle est rafraîchissante. Alors, elle va nous donner des fois, bon, oui, elle va faire dans l'humour, mais des petits coups de gueule. On va regarder l'actualité avec elle tous les jours. J'ai très hâte de jaser avec Varda. Et on va se garder des segments d'entrevue un petit peu plus longs aussi, de prendre le temps, tu sais, de jaser avec des gens qui ont fait l'actualité, mais que, tu sais, vous le savez, des fois, on a comme juste 7-8 minutes, puis il faut enchaîner les questions, puis il faut rester dans l'actualité. Là, essayez de jaser avec des gens que, tu sais, qui ont des caractères forts, qui ont fait les nouvelles, et on a envie peut-être un peu là, de voir leur côté givré, là. Donc, on va faire ça, et on commence fort lundi. On a Tasha Keridine qui va venir nous jaser un peu. Donc, c'est rare au Québec, hein, une femme anglophone de droite. On va jaser avec elle. J'ai très hâte.
T'en as-tu plus qu'une? À part Tasha, oui, mais heureusement, elle est excellente.
Non, mais assumer autant comme ça, c'est plutôt rare. Il y en a quelques-unes, là, Jonathan, mais elles ne sont pas nombreuses. Déjà, un, d'avoir une femme dans les médias, c'est déjà en soi un exploit. Deux, une anglophone qui perce dans le réseau francophone et qui, en plus, assume son côté de droite. C'est intéressant. Alors, puis elle a un côté de mère de famille. On va jaser avec elle. Donc, voilà le genre d'entrevue que j'ai envie de faire au cours de l'été. Pour qu'on puisse un peu, dans le fond, profiter de l'été, la chaleur, le lac, la piscine, les enfants. Bon, il y en a qui sont tannés de leurs enfants, mais on va essayer d'occuper l'espace un peu, là, et amuser un peu avec légèreté, mais avec rigueur quand même, les gens qui nous écoutent à la maison.
J'aime ta façon de l'envisager, parce que justement, c'est ça, en été, là, tu sais, j'en ai fait de la radio en été pendant quelques années, puis, premièrement, l'actualité, ça tourne des fois moins... Qu'est-ce que tu dis?
Quand tu étais jeune...
Oui, c'est ça. Je vais avoir 39 ans, tu sais, cet été. Mais c'est vrai que tu peux prendre plus le temps.
Fini.
Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que tu peux prendre plus le temps. Tu te sens moins obligé d'être ultra actualité. Tu peux aller ailleurs, faire des trucs plus légers. Puis les gens, tu sais, ils sont réceptifs à ça parce que justement, on est dans une période estivale, puis ça leur tente pas juste de se faire bourrer le crâne d'analyse ultra approfondie. Donc, ça va être bien intéressant d'écouter ça.
Ben oui, on va même avoir, puis je fais ça vite là, avant que vous me flushiez, là, mais on va avoir une chronique aussi littérature parce que bon, justement, c'est une belle occasion l'été pour lire.
Ben oui.
Et c'est Geneviève Lefebvre qui va venir jaser littérature. Puis j'ai demandé parce que bon. Vous le savez, j'aime ça prendre un petit verre le vendredi. Et donc, elle va essayer de nous jumeler un livre. Et avec quoi on pourrait boire ce livre-là? Donc, on va essayer d'exploiter mes deux côtés givrés, la lecture et la boisson.
Très bon, très bon. Hey, Caroline, je te souhaite une belle période estivale. Je serai à l'écoute. Je te donne
une petite chance. Merci à vous deux. Puis bravo pour votre saison à vous deux. Bon été, reposez-vous et on vous attend cet automne. Et je vais réchauffer votre place.
Parfait. Hey, bon été à toi. J'ai hâte de t'entendre et j'ai hâte de te voir, chérie.
Ah, hey, archivez ça, ce message-là.
Salut, Caro.
Bye, bye. Bye.
Franchement dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
1-877-827-2346.
Bon, j'avais envie de finir notre saison comme on terminait nos semaines à l'époque.
À l'époque, oui, pré-pandémie.
Jadis, là, quand on avait une vie un peu plus normale, et le vendredi, je disais, et on termine la semaine avec Vincent Dessureau. J'avais envie qu'on fasse ça parce que, on va lui parler de son émission que lui aussi va faire pendant la période estivale, mais aussi faire une petite jasette de faits et autres comme on le faisait d'habitude. Il est en studio avec nous à Montréal. Salut, Vincent.
Comment ça va? Tu voulais un semblant de normalité, là?
Avant de partir, oui.
Pour partir en confiance.
Oui. Je suis content parce que je regarde les sujets que tu m'as soumis, puis je suis pas dépaysé.
Non, c'est classique, j'ai fait ça classique.
Tu me connais.
Oui, oui.
Tu connais mes goûts, là.
Oui, oui, je sais par quoi tu vas commencer. La semaine dernière, on se disait, je commence toutes tes chroniques. Je dis, mes chroniques, ça paraissait si loin.
C'est vrai.
L'horaire avant là, ouais. de venir tout COVID. J'ai pas calculé le nombre d'émissions qu'on a fait spéciales parce qu'on a vraiment été à Cube. Là-dessus, c'est au moins 300 émissions. Moi, que j'ai fait en ligne là, avec des bulletins, j'étais seulement avec Benoît que j'étais pas le matin, là, mais c'était plus de 300. Ça a roulé.
Mathieu Boulay me faisait remarquer, hier, j'ai dîné avec Mathieu, puis il me faisait remarquer que, de mémoire, on a été le premier show à faire un show spécial 100% COVID. C'était la semaine que Benoît était malade, puis je remplaçais le matin. Et je faisais notre émission, et à un moment donné, il y a eu un show dans la semaine autour du 10 mars, là, où on a fait que COVID, puis on s'est posé la question, est-ce correct de juste parler de ça? Ouais. OK, on le fait, tu sais. Puis à la fin, on a dit, on a bien fait de le faire. Écoute, on pensait pas que tout le monde, partout, pendant 2-3 mois, ne ferait que parler de ça à partir de ce moment-là. Là. Ça a été un blackout total, là, tu sais.
Oui, mais on nous disait des fois, pourquoi vous parlez pas d'autre chose? Mais tu dis, c'était d'autres choses, il y en a pas. Alors, à un moment donné, ça a été fascinant à suivre, mais on n'est pas fâché que ce soit l'été et qu'on ait un peu à se mettre sous la dent aussi, là.
Oui.
OK. Parlons. Je veux qu'on fasse l'exercice de parler de trucs un peu plus légers, puis après ça, on va parler de ton émission.
Oui.
Tu dis que tu sais par quoi je vais commencer. Assurément par le troisième sujet que tu as soumis. Et les avantages de fumer du pot avant l'amour. Moi, personnellement, j'en connais pas.
C'est ça, c'est le sujet de même.
Mais je suis curieux là, de savoir qui s'est penché sur cette question-là.
Oui, ben en fait, il y a quelques études sur le monde du sexe là, dans les derniers jours. Une qui avait fait beaucoup jaser concernant les jeunes. Le fait que les jeunes faisaient moins l'amour. Là, en fait, même l'amour, mais genre le sexe en général. Là, donc, surtout chez les jeunes hommes, mais les jeunes femmes aussi. Donc, si on prend la dernière décennie pour les 18-24 ans versus les décennies précédentes, là, 2000-2010, puis dans les années 90, là, ça y allait au toast.
Il y a l'étude aussi dont tu nous avais parlé sur les bonnes méthodes là, à adopter pour être comme protégé tout en... n'ayant un peu de plaisir avec son partenaire.
Oui.
Ça a fait beaucoup jaser aussi.
Mais d'ailleurs, ça n'a pas fonctionné, ma chronique, Jonathan, parce qu'on disait, et Maud, parce que la COVID-19 n'a pas aidé. Là. Déjà que les jeunes avaient moins de relations sexuelles, la COVID, ça n'a pas aidé. On dit que là, ils ont plein d'affaires à faire à la place de tout ça, et que aussi, les jeunes ont tendance à moins prendre de risques qu'avant, et la sexualité fait un peu partie de ce qui est risqué quand t'es jeune, et on en voit moins. Mais, nouvelle étude sur qui pourrait peut-être en déstresser certains sur les relations sexuelles. C'est une petite étude, là. 41 personnes. Mais c'est publié dans le Journal Culture, Health and Sexuality, qui affirme que prendre un peu de cannabis avant une relation sexuelle, ça aide à certaines problématiques, entre autres ceux qui sont qui ont trop d'inhibition, là, qui sont gênés. Et ça permettrait d'avoir une connexion beaucoup plus profonde et intime avec l'autre personne, alors que normalement, tu es en retenue. Et ça, vu que ça te relaxe, tu te sens moins anxieux et ça devient donc plus intime. Alors, ça permet d'avoir un plaisir plus grand en temps normal. Par contre, je vous dis, c'est 41 personnes. Évidemment,
micro-échantillon.
Le cannabis a plein d'autres problèmes qui, je ne suis pas sûr, couvrent le positif. Mais quelqu'un là, qui fume de temps en temps, puis qui se dit, moi, je suis nerveux, là, puis je suis gêné, puis je suis pas bon, ben peut-être une pof, puis là, vous serez peut-être pas meilleur, mais vous en rendrez moins compte.
OK. Mais tu sais, non, mais je comprends peut-être l'aspect plus ésotérique. Là, je te trouve tellement belle. Voilà. Tu planes un peu.
Oui.
Mais je sais pas. Moi, un joint, tu sais, je connais pas ça, mais j'associe plus ça à un gros sac de chips que à faire l'amour. Là.
C'est sûr que tu te sentiras pas mieux dans ta peau si tu manges des chips à tonnes, là. À cause que tu fumes, là.
C'est ça. Mais en fait, tu vas encore moins avoir envie de faire l'amour si tu te sens comme une grosse patate qui vient de manger.
Et là, tu fumes plus pour effacer ça. Puis là, t'es dans le cycle de la drogue.
Ah,
puis
c'est ça.
C'est pas bon. Alors, évitez ça le plus possible.
OK. Sinon, tu nous parles de robots. De robots qui font des bulles pour sauver la planète. Quel genre
écoute,
de bulles?
J'ai été fasciné par cette découverte japonaise qui vient de publier. En fait, c'est un chercheur qui travaillait déjà, lui, sur la pollinisation, des techniques pour remplacer les abeilles. Parce qu'on sait, là, il y a un taux de mortalité élevé chez les abeilles. Et il nous faut ça pour que la faune et la flore puissent prospérer et ainsi qu'on puisse survivre. Et lui avait, entre autres, développé dans les dernières années des espèces de mini drones qui allaient de fleur en fleur. Le problème, c'est que ça brisait les fleurs. Alors, c'est un petit problème. Il dit d'ailleurs, c'était triste à voir.
Ils sont brisés.
Alors là, quand il est allé au parc avec son jeune garçon de 3 ans, il a remarqué un garçon qui jouait avec des bulles, un fusil à bulles, et a vu à quel point les bulles se déposaient délicatement sur les surfaces et rebondissaient sans problème. Et là, il a eu l'idée de génie. Il a commencé à faire des tests sur, d'un, le mix, le savon idéal pour capter le pollen, parce que le pollen se colle naturellement aux bulles. Liquide dans lequel on peut même mettre des produits qui facilitent la germination. Alors, tu as un liquide savonneux, mais dans lequel le pollen va survivre comme jamais, encore plus que sur un cul d'abeille. Et ensuite, on va envoyer les bulles...
Sur un cul d'abeille.
Ben, c'est de l'abeille, elle met ça... C'est-tu sur ses antennes? Je pense que c'est sur l'arrière-train.
Je sais pas, tu rends l'abeille très humaine. T'as parlé de taux de mortalité chez l'abeille. Mais là, on parle du cul de l'abeille. C'est
t'as juste comme passé dans la conversation, puis on a juste fait comme... T'as... Rewind? Ah, tu dis cul d'abeille?
Mais là, on a, donc, dans un champ de pêche...
Oh.
Envoyer des bulles, là, donc à tonnes. Et 95% des fleurs se sont trouvées pollinisées. Et on a ensuite, ça c'était l'idée des bulles générales, mais ensuite en mettant les fusils à bulles sur des drones qui ensuite suivent un chemin là, prévu d'avance par GPS, mais le drone est capable de couvrir 2 mètres secondes de champ en envoyant ses bulles qui ensuite se promènent au vent, touchent une et vont polliniser les fleurs, avec une délicatesse là, que l'humain peut pas faire. Alors, à suivre, il est en train de développer son truc, mais ça pourrait peut-être nous sauver un jour ou l'autre. Alors, on remercie ce Japonais qui a peut-être trouvé la solution à la fin du monde.
J'imagine juste plein de gens, les uns à côté des autres, un peu se passer là, avec des petits fusils à bulles, puis dire « feu ».
Là, t'imagines, aller travailler au champ, ça serait bien plus le fun.
Ben oui.
On peut se courir après.
Avec ton gars à bulles.
Oui, là, l'appel de Justin Trudeau serait entendu. Le studio Millenio, elle a rentré dans le champ, vous tirez des bulles, vous avez du fun, on vous met de la musique.
C'est clair.
Oui.
C'est clair. Il abandonnerait la PCU étudiante. une belle c'est délicat. Tu disais, c'est délicat comme technique. C'est délicat comme le cul d'une abeille.
Voilà, voilà. Voilà.
Hey, Vincent, j'ai parlé à Caroline Saint-Hilaire tantôt. Bon, je disais que Pierre Nantel va faire le matin de 7 à 10. Caroline va faire de 10 à midi. De midi à 13, on va s'informer. Et à 13h, tu vas prendre la part de l'émission de on appelle ça de mid-afternoon, quoi, de milieu d'après-midi.
Exact.
Et on s'attend.
Ben d'ailleurs,
de bons collaborateurs.
D'ailleurs, je vais être dans l'émission de Caroline Saint-Hilaire. Enfin, ma chronique, qu'on fait ensemble, elle va être à la fin de l'émission de Caroline Saint-Hilaire.
Okay.
Donc, je vais être là. Et à 13h, ben là, je prends l'antenne pour 2h. Et je t'ai comme collaborateur, Jonathan, parce que tu pars en vacances, mais pas 100%.
On va se parler deux fois par semaine.
On va se parler deux fois par semaine. Et ça, j'en suis très ravi, d'ailleurs, que tu gardes un petit lien d'emploi, comme dirait M. Trudeau, avec
pour toi, sincèrement, avec pour nous. Toi, là, pour toi, c'est, je pouvais pas dire non, là, c'est sûr. Là.
Et je vais commencer l'émission à tous les jours, ben, je vais vous saluer et tout ça, là, regarder un peu ce qui se passe, et je vais être avec Sophie Durocher. À mon avis, on manquera pas de sujet pendant l'été, surtout que moi, qui a fait souvent l'été, c'est mort. Mais pas cette année, parce qu'on est tous aux aguets de ce qui va se passer, de ce qui se passe à l'international et chez nous. Et aussi, moi, ce qui m'excite le plus éventuellement cet été, c'est les séries, là.
Ben oui, on va avoir du sport.
C'est vrai!
Si jamais on est en série, moi, quand j'ai vu ça, sachant que je faisais un show d'été, honnêtement, moi, je capote, là. Je suis pas le plus grand fan de sport, mais je peux le devenir en deux secondes, là.
Oui.
Si je demande que ça.
Ça, écoute, t'es impliqué, là.
Si on est en série en nous, là, je veux dire, je vais appeler dans les lignes ouvertes pour m'ostiner, là. Ça va être. puis on va vouloir parler aux auditeurs.
Ça va être dans la piscine, une période.
Mais on va débattre, là. Honnêtement, ce serait vraiment le plus beau cadeau, je pense, qu'on peut faire à des animateurs radio. Mais je pense que aux Québécois, là, ce serait tellement le fun de se casser la tête sur d'autres choses, d'occuper entre autres les conspirationnistes, là, qui pourraient parler de conspiration de Marc Bergevin, puis de Carey Price, y a-tu mal quelque part, ça nous occuperait l'esprit sur des choses bien plus le fun. Donc ça, je vais surveiller ça de près, là. Et on a Steve Fortin aussi qui va être là tous les jours, et j'apprenais dans les dernières heures qu'on a confirmé le chef Danny Saint-Pierre,
qui
est un des chefs quand même les plus colorés au Québec. On va parler bouffe avec lui. Et entre autres, là, tu sais, les quoi faire, quoi ne pas faire sur le barbecue. On fait des erreurs stupides et tout ça. Alors moi qui aime bien ça, la bouffe, ben on pourra en parler avec lui. Donc je pense qu'on va s'amuser pas mal.
Absolument, je l'adore, Danny Saint-Pierre, coloré, il est intéressant. Bref, ça va être super bon. Ben écoute, on se reparle à partir de la semaine prochaine. Je souhaite un merveilleux été.
Oui, recharge les batteries, là. Je sais pas si ta blonde prend un peu de vacances aussi. Je pense que c'est bien mérité, là, si vous pouvez en profiter sans vous casser la tête, là.
On va essayer un peu. Merci de ta collaboration tout au long de l'année, Vincent. Maude, un gros merci pour cette première année.
Ben oui, c'était le fun.
C'était le fun d'apprendre à se connaître, de développer notre chimie, d'avoir des fous rires nombreux, tout aussi nombreux qu'agréables ensemble. Ça a été une belle année. Je veux dire un gros merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés pendant l'année. Une belle pensée pour notre collègue Joanie Henry qui était à la mise en onde pendant une grande partie de l'année. Achille Moinet qui a pris avec brio le relais dans les derniers mois. À la recherche, évidemment, l'exceptionnel Mathieu Boulay qui travaille avec nous à tous les jours et qui est mon collègue à Québec, parce que évidemment nous, on est à Québec et avant qu'il y ait une pandémie, que je travaille maison, c'était Mathieu qui était à mes côtés, un gars fantastique, fort efficace. Également, merci à ceux qui ont donné un coup de main à Frédéric Mockel, qui est à la recherche également depuis le début de la pandémie. Véronique Morin, Michael Labranche qui ont été là. Ça a été une superbe belle année. Merci d'être à l'écoute. Merci d'être là toujours de plus en plus nombreux. C'est un privilège d'avoir un micro, un privilège de vous parler. Maud, je souhaite un bel été.
Oui, je serai avec Pierre Nantel cet été.
Tout l'été?
En poste.
T'as-tu des vacances un peu?
Deux semaines.
OK.
Deux semaines de repos.
Repose-toi.
Oui, repose-toi, toi aussi.
Va faire du bateau, amuse-toi bien.
Va pêcher sur ta terre. Je te ferai signe.
Je pense que ça se peut que j'y aille drette là. J'ai une chronique à écrire, mais ça se peut que j'aille là pendant l'après-midi. Hey, passez un super bel été. C'est Sophie Durocher qui s'en vient. Vous écoutiez Franchement dit à Cube Radio. À bientôt.